Je sors du film, je ne sais pas ce que je serais censé penser. C'est bien, c'est pas bien. Elle a l'air de s'y retrouver. En même temps, des fois, ça craint. En même temps, des fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, ni de condamnation, ni d'idéalisation d'ailleurs. Que ça soit du striptease, du monde de la nuit, ou que ça soit du travail du sexe. Il y a, oui, il y a du danger, mais il y a aussi des bons moments. Il y a aussi de la tendresse. Il y a aussi des trucs vraiment très, très, très dérangeants. C'est extrêmement c'est riche, c'est dense, c'est et ça encore une fois ça évite tous les écueils habituels. Moi franchement j'étais étonné, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des moments où t'as une légèreté à laquelle tu t'attendais pas, des moments où t'as une noirceur à laquelle tu t'attendais pas. Et d'ailleurs moi quand je l'ai vu donc en salle et les gens avaient des réactions super bizarres. À côté, alors, je suis allé voir avec Julie Loncin, éminente critique au Office du cinéma également. Il y avait un mec à côté de nous mais flippant, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment notamment lors de la première expérience un petit peu malheureuse, on va dire, de Louis Chevillotte, du personnage de Louis Chevillotte, où il se
très,
passe un truc.
Très malheureuse, en l'occurrence, qui est une scène, on peut le dire, d'agression sexuelle.
On peut le dire, on peut le dire. Le mec, il s'éclate de rire, mais comme devant le dernier Danny Boone, tu vois. Lui, il a pris ça pour un gag. C'est-à-dire qu'en fait, alors, bon, le mec avait peut-être un petit grain, un petit pet au casque, c'est possible.
Ça interroge sans doute davantage la psyché du spectateur que celui de la réalisatrice.
Mais ce serait que lui, tu vois, il y a d'autres gens dans la salle, par moments, encore une fois, à des moments que je trouvais extrêmement tendus. Oh, ils rigolaient comme ça. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a une espèce de gêne.
Oui, qui savent pas comment se dépatouiller de leur propre rapport à la nudité, à la représentation du sexe.
Absolument. À partir du moment où il n'y a pas de jugement, où il n'y a pas justement de côté, il n'y a pas ce côté voyeur qui ferait qu'on se sent un peu mal à l'aise, on dit oh là là, on sait des trucs, c'est difficile. On se sent jamais voyeur. Les filles sont à poil les deux tiers du temps, on ne se sent jamais voyeur. Question, Nicolas en parle d'ailleurs très très bien, question de durée de plan, question de cadre, question d'atmosphère, question, on ne sait pas, il y a quelque chose qui fait qu'on ne se sent jamais mal à l'aise parce que les filles ne sont jamais mal à l'aise et que la réalisatrice n'est pas mal à l'aise de les montrer telles qu'en elles-mêmes. Mais cette absence de jugement fait que effectivement il y a des spectateurs. Enfin, moi j'ai constaté des spectateurs qui savent plus quoi faire. Enfin, et donc ils rigolent à des moments hyper hyper étranges. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que ça évoque notamment des choses assez importantes comme le slut shaming, c'est-à-dire le fait de dire voilà celle-là elle couche, c'est une c'est une fille de mauvaise vie, une gourgandine. Et tu vois que ça vient aussi des filles. Enfin ça vient. Enfin ça n'insiste pas, mais enfin, on a bien compris, tu vois, avec ses colocataires qui n'arrêtent pas de dire, ouais, elle a couché avec un tel. Oh, bah, non, comme si c'était la dernière des traînées, comme si c'était, je sais pas, comme si on parlait de quelqu'un qui se droguait, qui machin. Donc, c'est, encore une fois, ça aborde tous ces sujets-là, mais sans, pas de façon trop insistante. Moi, je suis pas foufou de l'aspect, mais alors, c'est vraiment minime dans le film. Face caméra, la narration un peu comme ça, une actrice qui nous dit bon, je trouve pas que ça fonctionne de foufou. Je trouve que la fin, moi, honnêtement, je la comprends pas très bien. Est-ce que c'est réel ou pas? Je trouve que ça s'étire un peu inutilement. Pardon.
C'est une sorte de bifurcation vers la rom-com, vers les comédies romantiques. Mais elle m'a plutôt séduit.
J'ai pas compris. Je trouvais que ça s'effilochait, mais bon, je suis passé à côté de cette fin. Mais franchement, c'est des tout petits bémols. Les actrices sont vraiment, vraiment exceptionnelles. Zita Rowe, Louis Chevillotte, mais toutes les autres, et tous les rôles de mecs qui sont pas facile, hein, tu vois, hein.
Oui, non, mais c'est ça. C'est d'ailleurs même une des choses qui est surprenante dans le film. C'est la tendresse dont tu parlais qui va même sur les personnages masculins, alors qu'on s'attend au pire dans les premières scènes. Et t'as même cette scène que je trouve magnifique où elles arrivent dans le cabaret. Il y a personne à part, un des clients qui est un des réguliers, et ils sont en train de manger des glaces tous ensemble tranquillement, comme un moment normal, quoi, en fait. Et
comme une réunion des fiches du cinéma.
Exactement.
Oui, avec. Enfin, bref.
Généralement, je dis bien généralement, on est habillé.
Et donc, c'est un moment tout à fait banal, mais qui dit quelque chose quand même du regard qui est posé aussi sur ces hommes, qui ne sont pas diabolisés complètement, et ça, on ne s'y attend pas forcément dans le film quand on l'entame. Et cette tendresse, elle est présente à chaque moment dans le film. Ouais. Et notamment dans les scènes d'escorte que vous avez un petit peu teasées au départ, où il y a des moments assez incroyables. On n'est pas dans Jeune fille d'Ozon, on est dans quelque chose où il y a même des moments d'intimité, de drôlerie et de légèreté, comme tu l'as dit toi aussi, qui sont assez incroyables. Je veux dire, où toutes les deux donnent des conseils, où on se parle de sa vie du quotidien, où on est dans quelque chose de très léger qui rend les choses très agréables.
Clément.
Oui, mais que dire, qu'ajouter de plus? Moi, je suis complètement d'accord avec mes camarades. Ce qui est effectivement le plus beau, je trouve, dans le film, c'est un peu la notion de tiers inclus en philosophie, quoi. Le fait que pour une fois, le fait que voilà, ce que fait Borloto, c'est effectivement réussir à la fois à montrer toute la diversité des points de vue par rapport à ces désirs qui n'ont jamais dans le film honte d'exister. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment, bon, on a un peu dévoilé le truc, à partir du moment où se pose la question de marchandiser son corps, c'est-à-dire de, effectivement, la prostitution et le personnage de Zita Enro, parce que c'est le personnage de Louis Chevillotte qui est tenté par ça, et donc le personnage de Zita Enro qui est, avec qui elle entame une histoire, lui dit que c'est vraiment le degré zéro, enfin, l'asservissement total de vendre son corps, enfin, c'est voilà, l'asservissement total. Et en même temps, il n'y a jamais aucun jugement de valeur qui est posé par le film lui-même. C'est-à-dire qui est sécrété par le film lui-même. Tout est toujours sans cesse remis en cause. Et effectivement, alors, comme c'est un film où effectivement, pendant les deux tiers du temps, des jeunes femmes sont nues. Effectivement, moi aussi, je l'ai vu dans une salle où c'était quand même assez étrange et où j'avais l'impression que le plaisir passait beaucoup de l'écran à la salle, ce qui pouvait être effectivement un peu dérangeant. C'est quand même un film qui laisse effectivement les gens face à un miroir qui est leur propre rapport au corps. Et effectivement, c'est complètement dénué de moralisme, de n'importe. Et c'est effectivement assez brillant, puisque très vite on se retrouve face à un vortex, face effectivement à un désir qui n'a jamais honte d'exister. Et comment est-ce que nous on réagit face à ce désir, puisque de fait le film crée les conditions, une espèce de liquide amniotique où on est tout forcément baigné par nos propres représentations. C'est très fort effectivement d'arriver à faire un film aussi aussi dénué de jugement, et en même temps toujours conscient de ce qu'il fait, toujours extrêmement précis, extrêmement avec une conscience extrêmement aiguë de ce que c'est effectivement la sororité, le soutien, comment parler des violences sexuelles et sexistes, comment dépasser cela aussi, comment passer le trauma, comment éviter cela. C'est effectivement assez brillant si on enlève les mêmes verrues qui sont les mêmes que mes camarades,
réserves que
franchement les plans, c'est terrible, ça commence très mal quand même, il faut,
mais ça se rattrape, disons, très vite,
voilà. Mais c'est Chanson douce, c'était affreux, adapté d'un livre affreux. Fidelio était un très beau film, et on est très content.
Je n'osais pas le formuler de la sorte.
Très content de voir que Lucie Borloto revient.
Et c'est donc à mon seul désir, en salle, d'ores et déjà, sans transition. Je sais bien que Gaël Rer, ici présent, est pour le moins circonspect, pour ne pas dire qu'il est prêt de s'étouffer, lorsque je parle de Kelly Reichardt comme de la plus grande cinéaste états-unienne contemporaine, aux côtés, certes, de Steven Spielberg ou David Fincher, par exemple. Je vais donc demander à Florent et Francis, qui ont vu son nouveau film Showing Up, de s'efforcer de le rallier à ma cause, si tel est leur désir, bien sûr. En deux mots, à quelques jours d'une exposition, Lizzie, sculptrice, doit encore finir un certain nombre de pièces, mais les affres du quotidien, une chaudière en panne, un oiseau blessé, se mettent en travers de son chemin. Roland Hélier écrit dans les fiches du cinéma, ici, se mettent en scène les obstacles que doit quotidiennement surmonter un artiste contemporain, les freins qui ralentissent sa marche en avant, les mille et une tentations. Oui, il y a là quelque chose de christique, susceptible de le dérouter de l'objectif qu'il s'est fixé, de l'exigence à laquelle il se sent commandé de répondre. Si le propos, ajoute-t-il, reste modeste, décliné sur un mode mineur qui relève de la confidence chuchotée, il n'en fait pas moins l'objet d'un film magnifique. Fin de la citation. Dans le premier rôle, Michelle Williams, actrice fétiche de la cinéaste et qu'elle retrouve ici pour la quatrième fois, après Wendy and Lucy, La Dernière Piste et Certaines Femmes, chef-d'œuvre. À ses côtés, Hong Cho, Marianne Plunkett, John Magaro, qui en 2021 était déjà à l'affiche de First Co, mais aussi André Benjamin, ancien binôme de Big Boy au sein des bien-aimés Outcasts, et Judd Hirsch, qui deux mois après The Fabelmans de Spielberg, retrouve ici Michelle Williams. Je précise que Showing Up sera en salle à compter du 3 mai. J'ai envie de te donner la parole, Francis.
Fort bien, bien, écoute... Alors moi j'ai commencé à découvrir Kelly Reichardt assez tardivement, hein, puisque j'ai commencé avec Dernière Piste, mais en étant tout à fait enthousiaste à ce moment-là. Et là j'avoue, alors peut-être ça va rejoindre Gaël, mais différemment, que sur ce film-là je suis un peu circonspect. Les œuvres des artistes contemporains face à leur création, j'avoue que je suis resté peut-être un petit peu à distance par rapport à ce que ça a pu être sur d'autres films, effectivement Certaines Femmes ou aussi First Co, bien évidemment, et que j'ai regardé ça, alors effectivement peut-être comme un spectacle de gens qui se débattent, comme c'est suggéré par Roland Hélier. Oui, c'est vrai, mais je me suis dit bon,
il me manque quelque chose. Alors après, j'avoue que j'ai vu la bande-annonce du film, ce qui m'arrive jamais, mais allant effectivement aussi quand même de temps en temps dans une salle avec du public, je vois des bandes-annonces et beaucoup la bande-annonce de Showing Up.
Une bande-annonce d'ores et déjà donc surchargée de péripéties.
Mais complètement. Et alors justement, ce qui devient assez brillant dans cette bande-annonce, c'est qu'il y a cet effet création d'un running gag avec le problème de chaudière et où on découvre dans les affres de la création que effectivement le premier affre, c'est quand même le quotidien. Donc le personnage interprété par Michelle Williams va voir sa proprio en lui disant, moi c'est pas possible, je n'y arrive pas, je peux pas créer en n'ayant pas d'eau chaude, en pas pouvoir se laver. Et l'autre lui dit oui, mais moi aussi, je m'en occuperai après, parce que de toute façon, j'ai une expo à préparer. Et le personnage de Michelle Williams répond, mais moi aussi, j'ai une expo. Et l'autre lui dit, oui, mais moi, j'en ai deux. Et donc, c'est vrai que dans la bande-annonce, ça devient un running gag, alors qu'il fonctionne magnifiquement. Et d'un seul coup, je me suis dit, il y a peut-être des choses auprès desquelles je suis passé à travers. Mais ma réflexion, peut-être, si j'essaye de la pousser un tout petit peu, c'est que je crois que finalement, je préfère la Kelly Ricard des champs à la Kelly Ricard des villes.
Voilà, ça se passe toujours dans l'Oregon, mais effectivement, dans un environnement urbain, ce dont elle n'est pas si coutumière, à l'exception peut-être notable de son tout premier film qui est sorti sur les écrans français il y a de ça quelques années. Florent.
Oui, c'est vrai que chez elle, ça se passe toujours dans l'Oregon, de toute façon. Mais oui, non, c'est intéressant de revenir sur ce que tu disais au tout début, à savoir que c'est peut-être une des plus grandes artistes contemporaines.
Merci,
tout
Florent.
En Occident, parce que
moi, bonjour,
je suis totalement d'accord avec ça. Mais en même temps, ça m'amène quelques réflexions très rapidement. C'est que, par exemple, tu cites Spielberg pour la rattacher justement à ses auteurs majeurs. C'est un peu une anti-Spielberg dans le sens où on est dans
c'est pour ça que je l'aime aussi.
Oui, non, mais bien sûr. Mais on est dans un cinéma qui justement déstabilise un petit peu, je pense, le spectateur, parce qu'on est dans l'épure la plus totale. On n'est pas dans quelque chose qui est évident pour les gens qui ont grandi avec une forme de narration qui est très soulignée, qui est très facile à investir. Là, on est dans quelque chose qui est dans l'épure. Je veux dire, quand on envoie Oldjoy, un de ses premiers films, on était déjà dans une épure absolue, et là, on retrouve ça. Donc, c'est vrai qu'on peut être surpris quand on a vu qu'il y a des films comme La Dernière Piste ou comme First Cow qui sont quand même un petit peu plus généreux, même si beaucoup moins que la majorité des choses qu'on peut voir par ailleurs. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui est à l'os, qui, moi, me fait penser, par exemple, à la même trajectoire de Johanna Hogg, une autre autrice qui émerge un petit peu sur le tard en France, et qui sort aussi un nouveau film qui s'appelle Eternal Daughter, avec donc Tilda Swinton, et qui est dans la même économie, c'est-à-dire qui retranche de plus en plus de choses dans son cinéma. Et il y a quelque chose de fascinant là-dedans, à être vraiment dans presque dans cette approche minimaliste. Et ce qui est génial, moi, je trouve, dans le film, outre son épure, c'est que on est véritablement dans le rapport de force. C'est-à-dire qu'on a les rapports de force à la fois à l'intérieur de la famille, parce que tout le monde est artiste dans la famille de Michelle Williams, donc il y a une espèce de rivalité comme ça, où elle se sent, on voit un peu que c'est la taiseuse, on est quelqu'un qui est un petit peu mis sous l'été noir de toutes ces lignes de force à l'intérieur de la famille.
Qui est d'ailleurs présentée, on ne sait pas si c'est contextuel, si c'est lié au fait qu'elle est dans une situation de stress à quelques jours d'une exposition personnelle, mais qui est montrée comme un personnage pas spécialement agréable d'ailleurs.
Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, on ne sait pas grand-chose, on a très peu d'informations. On est vraiment dans ce moment qui précède l'exposition, qui d'ailleurs est une petite exposition. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. C'est un petit milieu.
On peut difficilement juger aussi. On en parlait en réunion de rédaction avec Nicolas Marcadet, de la qualité de son travail. Rien ne garantit qu'elle finisse. Qu'elle finisse au MoMA, hein, avec ce travail-là. Enfin,
c'est
pas de jugement de valeur, mais si, c'est ce que je suis en train de faire.
on est dans la confidentialité, on s'en rend compte. Je veux dire, il y a quand même des indices assez suffisants pour le dire. Et ces lignes de force, elles se représentent aussi vis-à-vis, comme l'a dit Francis aussi, il en a un petit peu parlé, avec sa propriétaire, donc avec l'histoire du ballon d'eau chaude, qui montre qu'elle est quand même dans un rapport de dépendance aussi avec elle, et aussi dans le rapport à l'art, parce que l'autre aussi est artiste, et qu'elle est plus accomplie, semble avoir plus de réussite, et donc elle est constamment prise entre ces différents rapports de force, et ça je trouve que dans l'épure du film c'est intéressant, c'est quelque chose qui est bien développé et qui constitue véritablement la force du film. Après, c'est vrai que dans une filmographie, et là on en revient encore à ces grands auteurs, même s'il y a beaucoup moins de films chez Kelly Ricard que chez quelqu'un comme Steven Spielberg, pour des raisons assez évidentes, même les petits films, entre guillemets, sont intéressants parce qu'ils enrichissent l'œuvre et ils disent quelque chose de l'artiste. Et je trouve que en ça, Showing Up, s'il est en dessous, parce que pour moi, First Cow était vraiment un très grand film et qui est dans ses moments, en plus, elle investit vraiment l'histoire du territoire américain et dans ses marges, dans cette route vers l'Oregon, hein, qui a été développée notamment par une série comme 1883, Taylor Sheridan, qui dit quelque chose de vraiment passionnant de la conquête de l'Ouest. Elle est dans autre chose, mais elle est dans un autre chose qui apporte quand même beaucoup à l'œuvre.
Oui, je voyais que tu prenais des notes, Francis.
Oui, je prends des notes parce que.
Que voudrais-tu ajouter ?
En fait, en entendant Florent, effectivement, il y a des choses qui me viennent quand même. Ce que je trouve à la réflexion, en échangeant là comme ça, d'intéressant dans le film aussi, et qui est intéressant par rapport à la société contemporaine.
J'entends, Gaël, le film est intéressant.
Tu vois, même si je suis un peu circonspect sur celui-ci.
Depuis longtemps.
Pardon. En tout cas, ce que je trouve, Francis, voilà, qui est d'intéressant, c'est qu'il montre une précarité du quotidien d'artistes en devenir, on l'espère pour eux, justement. Effectivement, on ne sait pas la qualité tant que ça de leur travail, et l'expo reste confidentielle, quoi. Elle est presque dans une galerie au coin de la rue, quoi. Mais que cette précarité du quotidien d'un artiste, elle est vue sans romantisme ni affectation. Et que ça, c'est peut-être la justesse du regard qu'il peut y avoir aussi dans le film.
Showing Up, ce sera donc en salle à compter du 3 mai. Et je vous propose à présent, d'ores et déjà, que nous fassions une première pause musicale. Et on se retrouve bien évidemment dans quelques instants.
Vida.
De retour sur les ondes de Radio Libertaire, vous écoutez longtemps, je me suis couché de bonne heure, Thomas Fou au micro, en compagnie de Francis Gavel et de la rédaction des Fiches du Cinéma, Florent Boutet, Clément Deléchaud et Gaël Rère, pour cette émission consacrée à l'actualité des sorties en salle. Alain Coustan, à l'instant, Alain Coustan.
Qu'est-ce qui vient, Alain Coustan.
À l'instant, nous écoutions In Austerly Journey. Est-ce que tu veux bien le dire pour moi?
C'était bien.
C'était bien ? Bon, très bien. Dernier morceau en date d'André Alaslo des Simonets, dont j'attends à présent, et je ne suis pas seul à cette table, le nouvel album Sans Transition. Monde ouvrier, syndicalisme, communisme libertaire et maoïsme, on vous fait un paquet cadeau, bande de gauchistes, avec les deux films qui suivent, en commençant par Désordre, le premier long-métrage du cinéaste suisse Cyril Schaublin, d'ores et déjà en salle. 1872, dans et autour d'une horlogerie suisse, Piotr Kropotkin, géographe et cartologue qui, quelques années plus tard, deviendra l'un des théoriciens et une figure majeure du communisme libertaire, croise un certain nombre d'ouvrières constituées en syndicats et ralliées à la cause anarchiste. Au casting, Clara Gostinsky et, dans le rôle de Piotr Kropotkin, Alexei Evstratov. Un film à la mise en scène virtuose, décentré, pourrait-on dire, ce que François Bégodeau le soulignait récemment dans un entretien consacré au film, était pour lui une façon idoine d'évoquer l'anarchisme, le décentrage dans la mise en scène. Quel anarchiste autour de cette table veut ouvrir les hostilités ?
Allez, j'y vais.
Allez, Clément. Nous avons vu le film ensemble.
Nous avons vu le film ensemble.
Retrouvés.
Effectivement.
À l'heure du petit déjeuner dans la salle du MK de Beaubourg.
Ça montre parfaitement, ce film montre parfaitement que la critique, c'est toujours sur le même spectre. Simplement, c'est l'intensité qui diffère. Puisque certes, c'est régulièrement assez drôle. La capacité de vignettage du film a un côté assez séduisant. Ce décadrage, ce décentrement qui, effectivement, représente parfaitement bien la tentation anarchiste, forcément, qui est l'idée de se décentrer, d'être à la fois complètement audible, mais jamais au premier plan, de jamais d'être toujours à la lisière et d'essayer voilà, d'abolir ce qui relève du premier et du second plan. C'est à parfois, oui, assez drôle, c'est toujours très bien vu, c'est très bien joué, mais c'est quand même un peu ennuyeux, faut quand même. C'est-à-dire, à un moment, pendant le film qui est quand même assez court, tout coulait sur moi. C'est-à-dire, il y avait une forme d'euphonie, c'était harmonieux, c'était très bien. Et j'étais déjà convaincu avant d'aller voir le film de ce qui allait m'être proposé. Et en tant que critique, j'étais certes satisfait, mais j'ai jamais ressenti un plaisir de spectateur. C'est plus ou moins une installation ou un cartel d'expo qui, effectivement, est enrobé avec tout ce qui plaît aussi à la critique quand même, il faut le dire. On sent que c'est un film qui répond d'une tentation de décadrement, d'être décentré, de pas de gérer un petit peu différemment les tentations, un peu d'abolir un peu la pression du cadre, de se libérer de ces carcans. Et effectivement, en plus, comme le film se situe historiquement et géographiquement au début d'un creuset, puisque c'est vraiment le début du temps réglementé pour tout le monde, les débuts de l'anarchisme, le début de la photo, début de la photo, c'est ça. C'est-à-dire que tout est très intéressant, tout est parfaitement pertinent, parfaitement perçant, et en même temps assez vague, je trouve. Ça répond tellement d'un film de festival qui reste quand même des objets de réaction au temps de l'époque et à la façon d'appréhender les films par la critique, que certes, il faut défendre les films qui sont un peu en vase clos, mais ça fait presque un peu obstruction à la dimension, à la volonté de transmettre une idée. C'est-à-dire, ça reste quelque chose. Je serais curieux de savoir ce qu'en pensent d'ailleurs mes collègues, mais c'est-à-dire que j'ai trouvé ça très bien, et en même temps, effectivement, extrêmement vague et assez vite oublié, malgré tout.
Gaël Grimace.
Je suis chiffon, je suis colère, je suis trahison. Je suis pas du tout d'accord. Moi, je me suis régalé. Franchement, je me suis pas ennuyé. Je peux pas. C'est pas un argument. Enfin, c'est pas. Je me suis pas ennuyé, donc je suis plus intelligent parce que non. C'est juste. On ne sait pas pourquoi. Moi, je me suis pas du tout ennuyé. J'ai trouvé ça. Mais alors, d'abord, très agréable, très plaisant. Non, mais très honnêtement, pour moi, c'est un film exceptionnel. Alors,
oui, les cadres sont extrêmement étonnants dès le début. Mais moi, j'ai pas envie, personnellement, j'ai pas envie de théoriser sur ah bah c'est telle raison égale je vais mettre des cadres comme ça. Je pense que c'est autre chose. Je pense que ça va au-delà de simplement une espèce de métaphore de l'anarchisme et tout. C'est une piste. J'ai pas envie de réduire le travail esthétique du metteur en scène à ça, même s'il y a ça entre forcément en ligne de compte. C'est difficile de rendre compte du film comme ça à l'oral. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que effectivement, les cadres sont extrêmement à la fois étonnants et comment dire extraordinairement composés. C'est-à-dire que des fois, tu as des personnages qui vont être très très loin dans l'image, avec au premier plan, tu vas voir une maison, un arbre et tout, tu vas voir une grande conversation qui va se passer, mais alors loin. Tu as des choses comme ça étonnantes, et tu as aussi des moments, beaucoup de moments dans la fabrique, enfin dans la machin, là, qui est l'usine de montres. Tu as des plans, notamment, il y a un plan, on aurait cru que c'est du Escher, tu sais, le mec qui fait les escaliers au plafond, là, qui les escaliers infinis et tout. Tu croirais vraiment à un truc un peu surréaliste. Et c'est tellement précis, la façon dont il filme les gestes, très minutie, parce que là vraiment on est sur des trucs microscopiques et tout, que ça confine effectivement quasiment au film surréaliste ou presque fantastique par moment. Je trouve que le scénario est excellent, c'est-à-dire que il est excellent, mais il ne répond à aucun des canons de ce que c'est que l'écriture scénaristique qui nous vient d'Hollywood et qui est censée être incontournable, trois actes et je ne sais pas quoi, et un arc et une évolution et machin. Il n'y a rien de tout ça, et c'est passionnant. Pour moi, c'est un film qui parle extraordinairement bien à la fois du travail, du temps, du politique, de l'aspiration révolutionnaire, mais par petites touches, par des bribes de dialogue, par des échanges entre les personnages, sans, alors avec cette espèce de truc comme c'est, je sais pas, c'est en Suisse, on dirait tous qu'ils sont sous extasie, ils sont tous souriants, ils sont tout est cool, tout est machin, alors qu'il y a une vraie violence des rapports de classe qui sont à l'œuvre. C'est constamment, pour ma part, je trouvais ça constamment étonnant, rafraîchissant, intéressant. En une toute petite scène sur un achat de photographie, parce que c'est la grande mode, alors tout le monde veut une photo de ci, une photo de ça. T'as une espèce de petite
leçon. On se refile des photographies de grandes figures de l'anarchisme,
oui, notamment.
Comme on le ferait de vignettes.
Exactement. Benigni. Et surtout s'ils ont été condamnés à mort, c'est encore mieux. Mais effectivement, comme
il y a une inflation dans les coûts, on la prend à la fin.
Mais c'est ça, mais oui. C'est-à-dire que tu as une petite leçon comme ça d'économie politique en quelques secondes autour de...
Est-il connu, est-il mort ?
L'offre et la demande. Moi, je trouve ça absolument remarquable. L'accusation fallacieuse de film de festival, c'est infamant. Parce que là, tu dis aux auditeurs, ces genres de trucs, en fait, tout le monde s'emmerde. Mais alors, on aime bien dire qu'on a aimé, etc. Alors là, vraiment, je suis pas du tout d'accord. Je pense que je suis convaincu que c'est un film qui restera. Je pense pas du tout que c'est un film comme ça de niche emmerdatoire et tout. Tout ce qui plaît à la critique. Moi, je n'ai jamais vu un film comme ça. Ce film, je ne l'ai jamais vu. Dans son scénario, dans son traitement, dans ses personnages, dans son atmosphère, dans son délire, dans la qualité de sa composition, je n'ai jamais vu ce film. Et c'est pas un truc onaniste pour critique, débilos et tout. Non, je suis pas du tout d'accord. Alors, je suis désolé que tu sois emmerdé. Moi, j'ai eu une impression de richesse d'avoir vu plein de films en un seul. Mais c'est aussi parce que comme il se passe de toutes les intrigues à la noix dont on nous gave en permanence, des intrigues, des sous-intrigues, alors on va te foutre une histoire d'amour, et machin, et puis un héritage, et puis une truc, et puis... Là, il n'y a rien de tout ça, ce qui fait qu'on se concentre sur l'essentiel. L'essentiel, ça peut être l'organisation de la tombola, tu vois.
Florent?
Moi, je les retrouve tous les deux, ce qui peut paraître étonnant, mais, vu la dissymétrie des opinions, mais je suis obligé d'aller dans le sens de Clément, parce que... Tu es obligé, notamment en tant que critique, de faire un pas de recul et de s'imaginer un petit peu qu'il y a des gens qui vont voir le film. En dehors de toutes les lectures qu'on peut avoir. Et c'est vrai que ça peut être un écueil, justement, de faire quelque chose qui ressemble à rien d'autre et qui donne aucune clé. Après, c'est quand même un film qui s'inscrit dans quelque chose. Moi, ça me fait penser à un cinéma qui va de Bresson jusqu'à Eugène Green, où on est dans une manière de jouer qui est presque récitée, qui est en dehors de soi et qui est dans l'altérité. Je veux dire, les films de Jane Green, quand on en regarde quelques-uns, on n'est pas surpris après derrière quand on voit le désordre. Après, au-delà de ça, oui, il y a des choses extrêmement passionnantes dans le film, notamment le rapport au temps. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce qu'il développe. Le temps, d'abord, le temps du travail. On va parler de l'établi après, on est dans les deux films dans un rapport au temps de travail qui est quand même assez important. On est dans le temps de l'usine qui est on a une scène aussi magnifique qui se passe à la municipalité où on a justement Kropotkin, donc personnage quand même assez incroyable. Moi, je veux dire, c'est un personnage qui me fascine depuis toujours, un prince de sang anarchiste, enfin on mêle deux choses qui ne devraient pas exister l'une avec l'autre. J'ai toujours trouvé ça thématiquement complètement fascinant. Et qui va envoyer donc un télégramme aux États-Unis et qui, en changeant de langue, parce qu'il y a aussi la question de la texture de la langue qui est beaucoup utilisée dans le film, on passe du suisse allemand au français, à l'anglais, et qui, en passant à l'anglais, devient quelque chose d'autre. D'un seul coup, j'ai l'impression que le personnage est plus incarné et parle plus directement de politique. Et justement parce qu'on est dans un temps différent, on n'est plus dans le temps de l'usine, on est dans le temps municipal, tout ça dans une idée d'internationalisme quand même assez forte et qui est beaucoup très bien cristallisée dans le film et qui parle de ce moment-là. On est dans la fin du 19e siècle, donc enfin dans le dernier quart du 19e siècle, et le film synthétise bien ça. Donc pour moi, on est un petit peu entre les deux, on est dans quelque chose qui à la fois est passionnant. Mais on est obligé d'être un petit peu honnête et de se dire, mon Dieu, si je recommande le film à qui que ce soit, je pense que c'est pas forcément un cadeau à lui faire, faut quand même le reconnaître. L'un n'est pas indissociable de l'autre. C'est-à-dire, tu peux avoir la lucidité de te dire, ouais, ça va quand même emmerder beaucoup de gens, et pas dans le sens où moi, j'aime m'ennuyer au cinéma, quoi.
Attendez, moi je vous entends pas dire ça sur Kelly Richard, c'est 10 fois plus chiant. Je vous entends pas dire ça sur le dernier de Simon Liang. Je vous entends jamais dire ça sur aucun film où vraiment il y a une espèce d'objectivité de l'ennui. Je comprends pas pourquoi sur ce film-là, vous pensez au pauvre spectateur qui va s'emmerder parce qu'il voit que Fast and Furious.
Moi je pense pas au spectateur, je pense à moi. Non, mais égoïste. Oui, oui. C'est-à-dire que je trouve que la grande fluidité et effectivement le génie objectif du film entraîne chez moi une forme de déperdition de chaleur, quoi. C'est-à-dire c'est un objet théorique. Pour moi, ça reste uniquement un objet théorique assez froid qui me charme, mais je sais tout de suite pourquoi ça me charme. La scène de Kropotkin, tout le jeu effectivement sur les textures sonores, les langages, ça, c'est objectivement brillant. Mais je tourne autour, c'est comme un vase dans un musée. Je tourne autour et quand je plisse les yeux, je vois plus le vase. Et bien là, quand je plisse les yeux, je vois déjà plus le film, quoi.
J'ai envie de me tourner vers Francis.
Oui, alors je vais rassurer Gaël en disant que on peut effectivement aimer les cinéastes que tu as cités, Kelly Richard, Simon Liang, et aussi aimer le film de Cyril Chaubling. Moi, j'avoue que c'est un film qui me réjouit. Alors, et puis. En fait, il me réjouit tellement que je m'amuse avec ce film. Donc, en suisse allemand, le titre du film, c'est Unruhe. Alors, qui est le mécanisme, hein, ça, je l'ai appris en voyant le film, hein, je savais pas. Mais le balancier qui se trouve au cœur, donc, du mécanisme d'horlogerie. Et alors, en jouant sur les homophonies approximatives, j'ai des souvenirs de mes cours d'allemand, je pourrais presque avoir envie de dire que Unruhe, ça devient Unruhe. Et Unruhe en allemand, c'est agitation. D'où peut-être la traduction de désordre en français, de désordre avec un S. Et c'est là où je trouve que le film devient assez réjouissant, parce qu'il fonctionne par opposition. Alors, effectivement, des oppositions sur le fond, puisque on est, dans l'ordre du travail, de sa précision, puisque c'est un métier très pointu. On va parler de la chaîne aussi tout à l'heure dans l'établi, mais on n'est pas dans les mêmes précision, minutie de travail, c'est peut-être parce que c'est suisse, et aussi comme ça une volonté de dompter le temps d'un seul coup, de pouvoir le mesurer. Et qu'est-ce qu'on trouve en face? Finalement, cette volonté de dompter le temps crée son propre désordre, puisqu'on se retrouve dans un endroit où il y a 4 mesures du temps. Alors il y a la mesure de la commune, il y a la mesure de la gare, il y a la mesure de l'église, et bien évidemment il y a la mesure de l'usine. Et après, comment elles concordent? Est-ce qu'on peut les faire concorder? Et que, par exemple, on se retrouve effectivement à être en retard au travail parce que on était sur la mesure du temps de la commune et qu'il faut prendre en compte la mesure du temps de l'usine. Et que donc, ça sera retiré de la paye, par exemple.
Et à quoi ça revient? En quoi ça consiste le fait de faire concorder finalement ces 4 temps? Qu'est-ce que ça dit de l'homogénéisation du monde et de sa soumission au pouvoir du capitalisme?
Alors, effectivement, complètement. Et donc, il y a ça aussi, ce que tu dis, il y a l'ordre du travail, il y a la chaîne taylorisé à l'extrême. Et puis, ben, il y a ce contre-pouvoir, ce désordre qui vient s'immiscer là-dedans, qui est l'anarchisme et les solidarités mutualistes. Et voilà. Et après, si on prend sur la forme, c'est ce qui a été dit, reproché ou au contraire soutenu, c'est que effectivement, il y a cet ordre des plans fixes de grand ensemble où les personnages semblent se figer. Et à contrario, moi, je trouve que cette distance crée finalement une distanciation et qui finit par être assez réjouissante, assez drôle. Un peu burlesque. Les scènes finissent par avoir du burlesque. Moi, quand je l'ai revu la deuxième fois, je l'avais vu en lien d'abord et après à la soirée d'avant-première au Saint-André-des-Arts, je trouve qu'il y a un burlesque dans le film, alors qui est peut-être dû aussi au côté suisse-allemand, notamment quand l'accent s'exprime en français, où c'est à la fois très chantant et en même temps très traînant, très lymphatique, et que même, parce que il y a quand même des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux de soumission, de subordination, et que même l'extase du film, c'est ces personnages de policiers municipaux qui sont là pour la coercition, mais qui font ça avec une telle décontraction, une telle bonhomie de ton, d'accent.
Et une efficacité très relative.
Que ça en devient drôle. Et moi, voilà, alors après, je vais faire mon super top mauvais critique. Je me suis dit que Cyril Schaublin, c'était le Wes Anderson de l'anarchie.
Okay, ah. Mais quelle horreur.
Attention, là, non, tu viens de reperdre Gaël.
Ça va, 5 minutes. Enfin, bref.
Et donc, je précise.
Francis.
Je vais quand même préciser un petit truc. C'est que quand même, on l'a pas dit, mais ce qui est intéressant, c'est que Radio Libertaire donc, est partenaire du film.
Tiens, c'est étonnant.
Voilà, ce qui est étonnant, parce que c'est quelque chose qui n'arrive pratiquement jamais, même avec des films qui peuvent être plus directement aussi militants, qui peuvent être peut-être aussi documentaire sur la forme. Et je peux dire, on peut tirer ce chapeau à Christiane Passevant de l'émission Chronique Rebelle, puisqu'elle est un petit peu à l'origine de ce soutien. Et puis, bah, comme on est à Radio Libertaire et pas ailleurs, on peut aussi, effectivement, même sur un film qu'on soutient, venir exprimer ses réserves sur le film.
Absolument, Désordre de Cyril Schaublin, et c'est donc d'ores et déjà en salle. Nous poursuivons notre tour d'horizon des sorties en salle. Citation dans laquelle, je le précise, ne vous en choquez pas, j'ai effectué une coupe. Me voici donc à l'usine, établi. L'embauche a été plus facile que je ne l'avais pensé. Ma piètre mine ne devait pas détonner dans l'allure générale du lot des nouveaux embauchés. Elle n'était pas de composition, le laminage des convulsions de l'après-mai 68, un été de déchirement et de querelles, était encore inscrit sur mes traits. Comme d'autres parmi mes compagnons portaient la marque de la dureté de leurs conditions de vie. On n'emmène pas large quand on vient quémander un tout petit emploi manuel, juste de quoi manger s'il vous plaît, et qu'on répond timidement rien aux questions sur les diplômes, les qualifications, sur ce qu'on sait faire de particulier. Je pouvais lire sur les yeux de mes camarades de la file d'embauche, tous immigrés, l'humiliation de ce rien. Quant à moi, j'avais l'air suffisamment accablé pour faire un candidat ouvrier insoupçonnable. Monsieur l'embaucheur a dû penser, tiens, un demi-campagnard un peu ahuri, c'est bon ça, ça ne fera pas d'histoire. Et il m'a donné mon bon pour la visite médicale. Fin de la citation. 1968, Robert Linhart, militant de la gauche prolétarienne, formation maoïste, fondé dans la foulée des événements de mai, décide d'entrer comme établi dans une usine Citroën, issue d'un milieu favorisé, diplômé de l'école nationale supérieure. Il devient donc ouvrier et travaille de l'intérieur, clandestinement, à la politisation des travailleurs, dans l'espoir d'une révolution qui, le croit-il, est imminente. Il en tire un ouvrage, L'Établi, dont je vous ai donc lu un extrait, et que porte aujourd'hui à l'écran Mathias Gokalp, après un premier long tourné en 2003, rien de personnel, et qui d'ores et déjà s'intéressait au monde du travail. Le camarade, car c'en est un, Pierre-Simon Gutmann, écrit dans les fiches du cinéma, je cite, « De l'usine au banc de la fac, le point de vue reste celui de Linhart et s'articule toujours subjectivement autour de cette question. Comment s'engager? Quels actes faut-il accomplir? Quel comportement faut-il adopter? Quelles décisions faut-il prendre et respecter jusqu'au bout pour espérer avoir un impact sur le monde? Une interrogation ouverte à laquelle beaucoup tentent aujourd'hui encore de répondre. Dans le rôle de Robert Linhart, Swann Harlow, à ses côtés Mélanie Thierry, l'inévitable Olivier Gourmet et Denis Podalydès, et le film est en salle depuis le 5 avril. Francis, Florent, Gaël, vous avez vu L'Établi. Tu n'as pas vu L'Établi. Francis, Florent, vous avez vu L'Établi.
Alors, on pensait que tu l'avais vu.
Moi, je l'ai vu. Mais toi, tu l'as vu.
Ah, non, je ne l'ai pas vu. Non. C'est fini ce désordre.
C'est très aimable de pointer ainsi mon manque flagrant de professionnalisme devant la France entière.
Pas du tout.
Francis.
D'accord. Et ben,
parce que je sais que tu avais à cœur de parler de ce film.
Tu l'as vu.
Et que je l'ai vu. Et effectivement, Thomas m'a vu à la sortie du film.
Mais tu m'avais envoyé un mail, Gaël. Tu m'avais dit que tu rattrapais l'établi, non ?
J'ai essayé.
Ah, voilà,
mais
c'est
pas,
ça.
J'ai
c'est
pas
ça.
Réussi.
T'as pas,
mais il est tombé.
Bah non. T'as pas pu entrer dans la salle.
Non, non.
D'accord. Ouais, je me disais bien, ça me revient. J'essaie de me dédouaner un petit peu.
C'est tout ce qu'on lui souhaite.
Francis, pardon.
Bon, alors, je vais botter un peu en touche parce que je vais lire un truc. Parce que quand on voit des films, effectivement, il y a souvent, alors on va rentrer dans la cuisine, quand on voit des films, souvent derrière, les attachés de presse nous demandent ce qu'on a pensé du film. Et il arrive qu'on leur réponde. En effet, alors j'essaye aussi de leur répondre, ça me prend généralement un peu de temps. Et pour l'établi, j'ai quand même pris assez rapidement le temps d'y répondre. Alors je le précise, parce qu'il y a un peu de conceptualisation, de contextualisation, pardon. J'ai écrit ce, voilà, contextualisation. C'est mon côté Wes Anderson qui revient, voilà. Gaël. Rassure-toi, ça date du 17 mars. Alors voilà, le mail commence, généralement je commence par dire bonjour et après j'écris.
Ah ouais.
Ouais, je suis comme ça dans les mails, je dis d'abord bonjour, quoi. Voilà. C'est sous le coup d'un inique 49.3 que je reviens vers vous pour évoquer l'établi. D'ailleurs, comment ne pas rattacher le film de Mathias Gokalp et la lutte qu'il décrit à celles qui ont lieu dans le contexte actuel de Xème réforme idéologique des retraites. Si le film déroule donc une lutte qui aboutit à un échec sur le plan de la revendication soutenue, ce qui semble aussi s'annoncer aujourd'hui, même s'il reste à suivre les étapes de motion de censure et de la rue, il montre aussi la dignité qui se construit dans cette lutte et qui, conflit après conflit, participe à l'écriture d'une conscience collective. En effet, si la lutte ouvrière, hier compacte de la chaîne, aujourd'hui nucléarisée des bullshit jobs, voyons large des poubelles vertes, des trottoirs aux poubelles digitales, des ordinateurs, reste sous le joug, elle élabore un récit que l'on peut considérer certes comme celui des vaincus, mais qui témoigne d'un sentiment de revalorisation de soi sans cesse reconquis. Pour y faire face, s'écrit alors le roman national des vainqueurs, gouvernement, patronat. Pour rester sur le plan économique, un roman national qui met en exergue la figure libérale de l'entrepreneur, self-man-man ou héritier, et flatte les notions d'individualisme et de réseau d'influence en lieu et place de celles de fraternité et de soutien mutualiste. Ce que suggère d'ailleurs assez bien à deux occasions le film de Mathias Gokalp. Là, je donne des éléments du film quand même. La première, quand il montre Juno, le chef du personnel, invité Robert Linard, tout juste embauché, à rejoindre le groupe informel qui s'est constitué entre, guillemets, vrais Français, en dehors des ateliers et autour de barbecues et autres apéros. À son niveau, ce groupe se veut réseau d'influence et mainmise potentielle sur le fonctionnement de l'usine. La deuxième, quand au cœur de la grève, il montre des ouvriers non grévistes qui finissent par craquer, triplement ballottés entre les injonctions des contremaîtres, les huées des grévistes et les nécessités existentielles qui les assignent, les enchaînent à leur poste et aux desiderata patronaux. En refusant en tant qu'auteur de les stigmatiser, d'en faire des jaunes, le cinéaste insiste sur le fait qu'il reste partie intégrante de cette fraternité ouvrière, malgré la dissension qui s'exprime et que jamais, au-delà de l'intérêt immédiat de la production, ils n'auront droit à la considération humaine de leur chef. Sur cette notion de fraternité qui semble, à mon sens, irriguer le cinéma de Mathias Gokalp, je ne peux m'empêcher de songer au plan ultime de son mi-temps, court-métrage qui mettait face à face deux caissières de supermarché, l'une étudiante venant chercher un job d'appoint, l'autre salarié quadra à mi-temps, et le mouvement de grève que la seconde initiait en soutien à la première menacée d'être virée suite au vol, circonstance atténuante, qu'elle avait commis dans sa propre caisse. Au-delà du strict soutien salarial qui s'exprimait, les caissières décidaient alors d'ouvrir leur caisse et de laisser passer clients et caddies sans intervenir. À l'écran, dans un plan d'ensemble fixe et latéral, le spectateur découvrait méduser la classe moyenne renverser les temples de la consommation. Et cela grâce à un geste libertaire de fraternité ouvrière. Je m'arrête là. C'est vraiment ce qui est écrit dans le « Je m'arrête là » est vrai. Et comme tu as lu Robert Linard, moi, alors grande qualité du film à mon sens, c'est qu'il donne envie de se plonger dans le texte de Robert Linard. Je l'ai découvert après.
Qui est un livre formidable.
Voilà, et qui a une grande fluidité d'écriture que je retrouve un peu dans le film de Mathias Gokalp. Et je cite juste trois lignes pour compléter. « Pour la dignité, avons-nous mis sur les tracts. Au fond, toutes les grèves se ramènent à ça, montrer qu'ils n'ont pas réussi à nous briser, que nous restons des hommes libres. »
Florent.
Ouais, alors déjà, le film profite quand même d'un véhicule magnifique qui est Swan Harlow. C'est quand même un immense atout du film. C'est quand même je pense, un des plus grands acteurs français à l'heure actuelle. Et il est de tous les plans, et il incarne cette espèce de transfuge de classe, parce que le personnage est quand même agrégé de philosophie, donc très extérieur au monde qu'il pénètre, le monde de l'usine. Hein, c'est tout le concept de l'établi, hein, c'est quelqu'un qui va vers un métier qui est pas du tout le sien, un monde, un univers social qui est très différent de celui dont il est issu. D'ailleurs, on a le personnage de sa mère, hein, qui montre bien, qui est joué par Françoise Lebrun, hein, qui est magnifique. Non, pas Françoise Lebrun.
Marie Rivière.
Marie Rivière, pardon. On est chez Romère, mais... donc ça, c'est assez passionnant, et ça rejoint d'ailleurs des ordres, dans le sens où on a deux personnages. On avait Kropotkin tout à l'heure, donc qui est quand même l'aristocratie russe à la base, et là on est qui est donc une des figures anarchistes qui va dans le monde de l'usine, même s'il est cartographe. Et là on a quelqu'un qui est agrégé de philosophie, qui se retrouve à être à la chaîne à l'usine, et qui à s'en faire saigner les mains, comme on le voit dans les premières scènes, qui sont d'une force assez redoutable. Et on est dans une forme qui est complètement différente, donc, de désordre, où là on est dans quelque chose de plus linéaire, de plus évident, peut-être plus facile au premier abord, et qui décrit un autre moment du temps révolutionnaire, parce que là on est vraiment dans quelque chose qui, moi personnellement, me passionne, où on est dans l'après bouillonnement, on est dans l'après mai 68, et dans ses répercussions, dans les conséquences un petit peu que ça peut avoir dans le monde de l'usine. Et
c'est-à-dire qu'on va s'efforcer d'en faire payer le prix aux ouvriers.
C'est ça, c'est qu'on a ce moment de réaction, parce qu'on est vraiment dans la réaction patronale, où on essaye un petit peu d'évider tout ce qu'il y a eu de gagné comme acquis social, parce qu'il faut pas oublier que 68, on le réduit souvent à un mouvement étudiant, c'est un mouvement ouvrier, fondamentalement, et que les acquis, les gains très pragmatiques qu'il y a eu au moment de mai 68, là, dans le film, on essaye justement de les faire payer aux ouvriers, en les faisant travailler gratuitement tous les jours en plus. Donc on revient sur ce temps de l'usine dont on parlait tout à l'heure avec Désordre, qui est fondamental et qui rejoint ce que dit Francis par rapport à notre préoccupation actuelle avec la réforme des retraites, qui est le temps de travail. Qu'est-ce que c'est que le temps, et comment est-ce qu'on conceptualise le temps en tant que travailleur? Et ça, le film le montre extrêmement bien. C'est comment ce personnage qui vient de l'extérieur pénètre l'entreprise et montre ce que c'est que ce drame du quotidien qui est le salariat. Lui en était très loin, parce qu'en plus il est à ce point en dehors du monde qu'il est rentier, qu'il possède un bel appartement, qu'il est complètement à l'extérieur de ses préoccupations, et pourtant il les investit totalement. Donc oui, je trouve que c'est une belle réussite de réussir à retranscrire ce moment de l'idée révolutionnaire, ce râle quelque part d'une idée internationaliste. Avec des beaux messages d'espoir, et ça parle aussi beaucoup de racisme. C'est quelque chose qui est très intéressant. C'est de voir un petit peu toutes ces populations qui sont à la chaîne, et les enjeux pour eux qui vivent dans l'usine. On est dans le temps de l'entreprise va jusque dans comment est-ce qu'on est logé par l'entreprise, et comment est-ce qu'elle nous tient, comment est-ce qu'elle tient ces personnes dans ses serres le plus fermement possible. Et en ça, je trouve vraiment que c'est très très bien montré dans le film.
C'est donc d'ores et déjà en salle l'établi de Mathias Gokalp, et je vous propose à présent que nous fassions une nouvelle pause musicale, et on se retrouve dans quelques instants. De retour sur les ondes de Radio Libertaire, et oui, c'était une courte pause musicale. Je sais que tu t'en félicites, Gaël, quand ce son de pause. Vous écoutez donc longtemps, je me suis couché de bonne heure. Thomas Fouet, c'est moi, au micro, en compagnie de Francis Gavel. C'est lui, je le montre, mais vous ne le voyez pas. Et la rédaction des fiches.
C'est nous.
C'est nous, c'est, voilà. À l'instant, nous écoutions Pharmaciste des Canadiens d'Always, soit l'équilibre parfait dans un album Blue Rêve, sorti l'an passé, lui-même proche de la perfection entre Power Pop et Shoegaze. Je sais que tu vois tout à fait de quoi je parle, Gaël. Retour au cinéma, je vous propose à présent un panel de ressorties. J'aurais pu vous inviter à évoquer Charisma de Kiyoshi Kurosawa, de retour dans quelques salles depuis le 5 avril, ou encore L'invasion Los Angeles de John Carpenter, autre film éminemment estimable. Mais le temps nous est compté, mon choix s'est donc porté sur d'autres films qui me sont chers, eux aussi. Dans l'édito des fiches de ce mois, tu revenais, Gaël, sur la ressortie en salle du film de la regrettée Chantal Akerman, Jeanne Dillman, 23, Quai du Commerce, 1080, Bruxelles. Sur certaines des réactions que, dans le KGB cafardeux de la cinéphilie mondiale, avait provoqué son accession dans la revue Sight and Sound à la première place de la liste des 100 plus grands films de tous les temps. Le film succédait ainsi, rappelons-le, au Vertigo d'Alfred Hitchcock. Je te cite, Jeanne Dillman, soulignais-tu, est bien sûr aussi un film politique. Filmer quelque chose, c'est lui accorder de l'importance, c'est décider que c'est intéressant. Faire les courses, servir la soupe, garder le bébé de la voisine, c'est intéressant, c'est important. C'est la vie de milliards de personnes, Jeanne Dillman. Faire aller les machos et les réactionnaires, tant mieux. Fin de la citation. 3 heures durant donc le quotidien de Jeanne Dillman, donc femme au foyer, bruxelloise. Au casting, on retrouve autour de Delphine Seyrig de tous les plans, ou presque, Yann de Cort, Henri Storck et le cinéaste Jacques Daniel Valcroz. Et le film est donc de retour en salle. Je ne résiste pas. Avant de vous donner la parole, à l'envie de citer l'impayable Éric Neuf dans le Figaro de cette semaine. C'est en écho à ton propre article, Gaël. Ouvrez les guillemets. Cela n'arrête pas. Elle fait les lits, la vaisselle, mou du café, sur les chaussures, pétrit de la viande hachée. Parfois, elle sort. Les séquences sont presque du John Ford. Elle va à la poste, chez le cordonnier. Son fils rentre du lycée avec son cartable et son duffel coat. Il dîne sans un mot sur la toile cirée. Le benet a un livre à côté de son assiette. Ne lis pas en mangeant, lui lance-t-elle, car Dolto ne lui est sans doute pas étrangère. À un moment, cette maïté pour un télo épluche longuement des pommes de terre. Le suspense est à son comble. Préparera-t-elle des frites ou de la purée? C'est comme si, avec un demi-siècle d'avance dans les couleurs d'un vert sale, l'héroïne rousse et laconique s'entraînait pour participer à l'émission Top Chef. Fin de la citation, pas plus stupide que le reste de l'article, je le précise. Cela m'a fait repenser une fois encore un article lu il y a de cela quelques années dans le Figaro déjà, tiens donc, et qui était consacré au très beau 35 roms de Claire Denis. Décidément, rien ne nous sera épargné du quotidien, persiflait son auteur, le quotidien des prolos, fallait-il comprendre. Le cinéma aussi est l'endroit d'une lutte de classe, haine de la modernité cinématographique, mépris du prolétariat et de la condition féminine. Nous avons là le bingo du boomer, je n'ai que trop parlé, je vous donne la parole. Gaël.
Alors, moi je vais défendre Éric Neuf. Je vais le défendre Éric Neuf parce que, en fait, tout dépend, si vous voulez, tout dépend de ce que tu attends du cinéma. Éric Neuf. Voilà. Le suspense est à son comble. Sous-entendu, il n'y a pas assez de suspense pour lui. Ça, lui, il lui faut une intrigue qui relance régulièrement son attention. Sinon, il pique du nez, peut-être, je ne sais pas. Il a besoin.
Y a-t-il aussi cette idée que l'intrigue doit porter sur des personnages a priori intéressants? Donc,
voilà, intéressant
dans tous les cas,
pour
dans
lui.
Tous les cas, pas une ménagère.
Intéressant pour lui.
Voilà.
C'est-à-dire, je ne sais pas, Éric Neuf, je ne sais pas qu'est-ce qu'il anime, qu'est-ce qui le fait rêver, mais quand il dit, c'est très juste, quand il dit « elle épluche les patates, elle cire les chaussures, ça n'arrête pas », ouais, ouais, mais ça c'est la vie de ta mère, si tu veux. C'est la vie de nos mères à tous, je pense. C'est la vie de la majorité des mères sur l'ensemble du globe depuis des siècles, à minima. Alors, Éric Neuf trouve que ce n'est pas intéressant. Éric Neuf préfère, je sais pas, des bandits, des cow-boys, etc. C'est-à-dire des gens qui représentent une fraction quand même de la population. Si tu fais un film qui représente quasiment la moitié de l'humanité, en arrondissant, bah ça l'intéresse pas. Parce que lui, il attend autre chose du cinéma. C'est son droit. C'est son droit. Le suspense est à son compte. Bah, écoute, très bien, lui, il lui faut des films écrits selon, comme je disais tout à l'heure, la théorie des trois actes, il faut un arc, il faut une histoire d'amour, il faut qu'à 20 minutes de la fin, putain, il y a un problème et tout, qui va tout faire foirer. Voilà. Bon, donc, Éric Neuf, mais il devrait préciser, d'abord, voilà ce que j'attends du cinéma, et donc, Jeanne Dillman ne répond pas à cette attente. Voilà. Alors, il y a pareil. Il y a des gens qui ont trouvé. Alors, c'est étonnant que John Dillman soit numéro un de la liste des 100 plus grands films de tout le temps. C'est étonnant. Mais essayons de comprendre plutôt que de tout de suite hurler au wokisme, à, si tu veux, on sait 1984, le politiquement correct, censure tout. Bon, écoutez, il se trouve que, Internet aidant, je pense que John Dillman n'a jamais été autant vu que depuis ces 10 dernières années. Effectivement, entre 2012 et 2022, le panel a doublé hein, pour faire cette liste.
On peut supposer également qu'il s'est un petit peu féminisé.
Mais c'est ça. C'est-à-dire que les postes universitaires, les emplois de critiques étant de moins en moins réservés aux hommes, enfin, fatalement, il y a plus de femmes. Et le fait que les cinéphiles femmes ont peut-être un point de vue un peu différent, en tout cas certaines, sur l'histoire du cinéma ou sur certains films, c'est quand même pas un scoop. Enfin, voilà. Donc. Il faut simplement raison garder, voilà. Donc Ryan Knopf n'aime pas ce film parce que lui...
C'est cette idée selon laquelle, je me permets de m'interrompre deux secondes, c'est cette idée selon laquelle il n'y aurait pas une histoire du cinéma, mais plusieurs histoires du cinéma.
Bah, c'est-à-dire que ce fameux wokisme politiquement correct qui émascule tout le monde et qui nous censure, etc., c'est simplement l'idée de prêter un tout petit peu plus l'oreille qu'avant aux voix des opprimés, des dominés, des minoritaires, des sans-grades, des prolos, etc., etc. Juste faire un peu plus attention, ce qui fait que, en fait, l'horizon s'élargit. Je vais pas, parce que je vois John Dillman, je vais pas détester Vertigo. J'aime encore plus de cinéma au pluriel. Donc, John Dillman, c'est un film. Alors, c'est un film tout à fait étonnant pour plein de raisons, mais notamment parce que il arrive à te donner l'illusion du temps réel alors que c'est pas du tout du temps réel. C'est-à-dire que si tu la vois éplucher les patates, alors c'est les patates, qu'est-ce que c'est chiant et tout. Bon, il y a on en a parlé, il y a une histoire de la patate au cinéma qui reste à faire.
Patate cuite, patate crue.
Toy Story.
Toy Story.
Camille Claudel 1915 aussi, belle scène d'épluchage de patates, magnifique. En fait, ça dure pas si longtemps que ça, et en fait, si t'épluches les patates, ça dure beaucoup plus longtemps. Pareil quand tu fais la vaisselle et tout. Mais elle arrive à créer cette illusion du temps réel, et avec un truc, avec un twist, c'est Delphine Seyrig. Et on sent que c'est pas une prolo, Delphine Seyrig. Donc, il y a un léger décalage. Qui fait que
on a l'impression qu'elle apprend les gestes au moment même où elle les fait, qu'elle en fait la démonstration d'une certaine
alors,
façon.
Beaucoup ont trouvé que c'était un défaut, alors que ça a été. Et il se trouve que j'ai vu une interview de Chantal Akerman qui disait au contraire, si on montre une ménagère type un truc un peu documentaire et tout, qui épluche les pattes, en fait on le voit pas. Pourquoi? C'est normal en fait. Donc on le voit pas. Comme on ne se rend pas compte. Moi, je me suis jamais rendu compte du travail hallucinant, colossal que faisait ma mère depuis des années. Enfin, c'est que récemment que je commence un tout petit peu à tilter. Donc, on ne le voit pas. Donc là, si c'est Delphine Seyrig et que les gestes sont pas si naturalistes que ça, on le regarde. Et plus ça va, plus on est interloqué. Si les gens, certaines personnes peuvent voir l'image d'un truc, effectivement, très plan-plan, très ennuyeux, pas du tout. Les plans sont composés. Si tu veux, tu n'as pas une impression du tout de « je plante ma caméra, je vais faire une sieste, je reviens ». Non, vraiment, il y a vraiment une composition, il y a une suite. Et comme dit Eric Neuf, ça n'arrête pas. Mais parce que ça n'arrête pas pour toutes ces personnes-là, qui sont incarcérées dans un emploi du temps au service de leur famille, au service de leurs gosses, au service de leur mari. C'est un travail absolument, je veux dire, qui te tue, qui est usant, qui est stressant, etc., qui n'est pas rémunéré, et tout le monde trouve ça normal. Bon, voilà, là, il y a un film qui te montre ça. Donc forcément, oui, alors ça peut être perturbant. Honnêtement, si tu y vas en donnant vraiment sa chance au film, en disant « Ok, va pas y avoir une intrigue de fou, mais vraiment, je regarde. » Honnêtement, moi, j'ai pas trouvé ça ennuyeux, vraiment ennuyeux. Je conteste pas qu'on puisse s'ennuyer, mais d'autant qu'il y a aussi une dimension supplémentaire qui est que elle se prostitue pour mettre Hubert dans les épinards, et puis qu'il y a quelque chose qui va advenir au bout d'un certain temps dans le film et que je ne vais pas révéler. Mais esthétiquement, c'est un film qui est très très fort, et c'est quand même un film qui nous montre un pan énorme de la condition humaine qui est en fait qu'on ne voit plus, qu'on ne voit jamais. Donc c'est un film extrêmement important pour ça. Bon ben voilà, j'en dirai pas plus.
Francis.
Oui. Je finis de prendre des notes en même temps. J'écoute Gaël, ça me donne des idées et tout ça. Je découvre Jeanne Dillman, hein, j'avoue, je l'avais jamais vue auparavant. Effectivement, le fait peut-être que comme il se retrouve en première position dans le classement Sun and Sight, d'un seul coup, ça me l'amène d'un éclairage nouveau sur une cinéaste qu'en plus je connais très très mal. J'ai vu très peu de choses dans la filmographie de Jeanne Ackerman. Donc d'un seul coup,
Chantal, pardon.
Excusez-moi, c'est l'émotion.
Tu fais un mash-up entre la cinéaste et son personnage.
Oui, c'est ça. Pardon. Donc j'ai vu le film en salle au Reflet Médicis, c'était mercredi, c'était la première séance du film, et je me suis dit bon, on va être une dizaine quoi, ça va être, mais très bien hein, ça sera très très bien, ça va être une expérience cinématographique, sauf que la salle, il y avait environ 70 personnes quoi. C'était moi ce que j'appelle quand même une très belle séance quoi, et des gens d'âge très différents. Alors oui, on est au Quartier Latin, donc on peut se dire que les gens plus jeunes, c'est des étudiants de cinéma qui viennent voir ce film somme qu'il faut avoir vu, et puis après des gens plus âgés qui comme moi, qui ne l'ont pas vu avant et qui d'un seul coup se disent, maintenant c'est l'occasion, en plus la copie est restaurée, la copie est magnifique, enfin tout ça. On va y aller, quoi. Et c'est vrai que c'est... Alors, avant de rentrer juste dans le film, c'est une expérience cinématographique, je pense que j'ai vécu ça deux fois dernièrement, sur des ressorties, sur des films comme ça, Fleuve et Somme, et très différents. Mais Fleuve et Somme à chaque fois, c'est donc Jeanne Dillman, et c'est La Maman et la Putain, quoi. C'est deux films comme ça, d'un seul coup, où on rentre... Quand on rentre, on sait qu'on va partir pour une expérience de 3 heures et quelques, et on en ressort en ayant eu quelque chose qui est venu un peu comme ça battre. On parlait tout à l'heure du temps, de la mesure du temps, qui d'un seul coup a cassé la mesure du temps. Quand on ressort, on a l'impression que ce qu'on perçoit dehors n'est pas pareil que quand on est rentré, quoi. Donc c'est assez fascinant. Donc après, pour parler du film, mais c'est vrai que le film part aussi de ce vécu de projection. Moi, je trouve que c'est un film à la fois, et donc on va toujours citer notre cher Éric Neuf, contrairement à ce qu'il dit, moi je trouve que c'est un film à la fois alors, très prosaïque et en même temps très romanesque. Très prosaïque parce que, comme le disait justement Gaël, il montre le quotidien des gestes, et il y a des choses qui sont effectivement complètement étonnantes, de voir le nombre de gestes, leur mécanique, la mécanique des gestes, et puis aussi ce qui les fait se rapprocher. Il y a au début du film quelque chose qui est absolument saisissant, après le rapport avec son premier client, c'est des clients réguliers en plus qui reviennent d'une semaine sur l'autre. On voit Jeanne Dillman se laver dans la baignoire. Et donc, se laver un petit peu longuement, se laver en se mettant contre le robinet avec un gant, elle prend pas, c'est ni un bain ni une douche, quoi. C'est quelque chose. Je me renettoie avant que mon fils arrive. Il y a quelque chose. Et qu'est-ce qu'on voit juste après? On reste dans cette salle de bain et on la voit en train de récurer la salle de bain pour éliminer toute trace. Enfin, il y a quelque chose de saisissant dans le rapprochement des deux actions, des deux scènes. Et c'est comme ça plein de choses fascinantes. Et dans ce côté prosaïque, le film montre effectivement ces tâches qu'on accomplit de manière répétitive, mais aussi leur dérèglement. Et c'est assez fascinant, ce dérèglement qui d'un seul coup va tout bousculer. Et par exemple, le fait que les patates, toujours pour faire plaisir à Éric Neuf, soit trop cuite. Et là, d'un seul coup, on va parler de cinéma, parce que oui, au début, on peut se dire, elle met la caméra là, c'est un plan fixe, c'est génial, parce qu'elle a compris, Chantal Ackerman, que le cinéma, on peut ne pas bouger la caméra, et donc on la bouge pas si ça sert à rien. Sauf que oui, elle fait un truc juste avant, parce que d'un seul coup, on rentrait toujours dans la cuisine du côté de la porte, dans le couloir. Et d'un seul coup, avant ce dérèglement, il y a un changement d'axe et on est de l'autre côté dans la cuisine. C'est-à-dire qu'on la voit revenir du couloir et c'est au moment où les patates ont trop cuites. Donc d'un seul coup, voilà, premier dérèglement, et le dérèglement est amené par la mise en scène. Alors, il y a ça. Et puis, effectivement, il y a aussi ce prosaïsme de la prostitution qui, là, est montré comme quelque chose de régulier et qu'on fait de manière... presque hygiéniste, c'est-à-dire qu'un homme, d'abord, ça se passe très vite. Ces scènes-là, par contre, à contrario, elles se passent très vite. On sent que pour l'homme, c'est juste hygiénique. Il décharge, hein, il tire son coup, et après, il s'en va. Il paye, il s'en va. Et en même temps, c'est aussi le romanesque du film. Ça va être du romanesque du film, mais que le romanesque, il va aussi s'inscrire dans des tas de choses qui sont absolument magnifiques, qui sont la lecture de la lettre de la tante Fernande, qui est cette confidence sur la rencontre avec le mari. qui est cette confession du fils face au rapport sexuel des parents. Des petites choses comme ça qui apparaissent, qui d'un seul coup font rentrer du romanesque, et puis le romanesque va peut-être prendre une part un petit peu plus importante, et des choses comme ça. Et pour faire plaisir à Eric Nauf, qu'on apprécie tous tellement, quand on aime Vertigo, puisqu'il regrette que Citizen Kane et Vertigo soient plus en haut de la liste, et ça, comme a dit Gaël, ça les déprécie pas pour autant, mais d'un seul coup, bah, Chantal Akerman, elle aussi, elle a vu Vertigo, et elle aussi, elle se rappelle, et elle a pas vu que Vertigo, elle a vu Le crime était presque parfait, et elle se rappelle que quand on implante un objet dans une scène, on crée dans l'esprit du spectateur l'idée que cet objet va forcément revenir à un moment, et que, comme disait Hitchcock, il vaut mieux le suspense que la surprise. Eh ben, Chantal Akerman, elle le sait aussi, et elle le fait, sauf qu'on s'en rend pas compte tout de suite, parce que c'est un geste dans tous ses gestes. Voilà. Et le seul petit, c'est pas un bémol, c'est une appréciation différente de celle que portait Gaël par rapport à Delphine Seyrig. C'est que moi j'ai eu très très vite cette sensation, et tout ce que tu dis, Gaël, je trouve très très juste. Mais moi j'ai eu une sensation d'oubli de l'actrice. Je ne la vois plus. Je ne la vois plus en tant qu'actrice. Je vois plus Delphine Seyrig au bout d'un moment. Et ce qui est assez fascinant, et qui est peut-être possible que dans le fait de la durée du film, dans laquelle s'inscrit le film, quoi.
Florent.
Ouais, moi j'aurais envie de dire un mot sur quand même qui est Chantal Akerman au moment où elle réalise le film en 1975. C'est une jeune femme de 25 ans. Je pense que c'est aussi ce qui dérange quelque part le monde très phallocrate de la critique de la génération d'Eric Neuf. Après, on lui fait beaucoup de publicité, je pense qu'il mériterait de retourner dans son trou et qu'on n'en parle plus du tout. Mais au-delà de lui, je pense que ça dérange toute une génération qui a l'habitude justement qu'on parle toujours des mêmes personnes. Et moi je suis fou de joie qu'aujourd'hui on porte nu des gens comme Kinuyo Tanaka, réalisatrice japonaise, qui n'était connue que comme l'actrice de Mizoguchi, et qui en fait était une grande metteuse en scène, et qui, Dieu merci, a été un petit peu remis sous les feux de l'actualité, grâce notamment au coffret de Carlotta, qui était extraordinaire, parce qu'il n'existe même pas au Japon. Et donc on a des autrices aujourd'hui qui montrent le bout de leur nez, et je trouve ça merveilleux, et tant mieux si ça dérange certains. Donc oui, c'est quand même quelqu'un de 25 ans. C'est, je veux dire, déjà l'année précédente, elle avait fait Je tue Hillel, qui est un film que je trouve exceptionnel, où on voit pour la première fois, d'ailleurs, comment il s'appelle, cet acteur belge qui joue dans De battre mon cœur.
Olivier Gourmet.
enfin bref, c'est où elle est.
Jonathan Zakaï.
Non,
parce que elle est
actrice, donc elle est actrice aussi du film. Elle est face à la caméra, où littéralement, on a une scène de 20 minutes où elle mange du sucre face à la caméra. Enfin, où il se passe absolument rien.
Je crois que Francis Gavel est en train de procéder à une vérification en antenne. On va te donner le nom de l'acteur.
Ouais, j'ai les trous de mémoire légendaires.
La VAR.
Et donc c'est quelqu'un qui avait déjà commencé même dans le court métrage très jeune, à 20 ans, à faire des films vraiment exceptionnel. Et à 25 ans de réussir, parce qu'on parle de Citizen Kane, donc le premier grand film de jeunesse d'Orson Welles, mais là aussi on est dans le tour de force de réussir quelque chose d'aussi abouti quand on a que 25 ans.
Oui, elle signe quelque chose qui n'est pas seulement l'indice ou l'intuition d'une modernité à venir, elle en signe d'ores et déjà la concrétisation. C'est comme ça que j'envisage le film.
Et d'offrir une continuité avec ses premiers cours, comme vous allez peut-être en parler, mais Saute ma ville,
qui était déjà génial en soi, et qu'elle fait à 20 ans, et qui est déjà préfigure toute l'œuvre.
L'horreur domestique, le décentrement, ce qui est déjà là.
Voilà. Et puis derrière toute sa filmographie est passionnante, et tant d'un point de vue formel que justement dans le fond, parce que c'est quelqu'un qui détonne, c'est quelqu'un vraiment qui, enfin je veux dire, Jane Dillman pour moi c'est un film d'horreur, mais l'horreur dans la banalisation du mal, je vais pas faire du Hannah Arendt pour les nuls, mais on est dans quelque chose qui diffuse de l'horreur dans tout ce qu'il a de plus banal dans le quotidien d'une femme, comme l'a dit très bien Gaël, et comme il le dit très bien dans son magnifique édito, on est dans quelque chose du quotidien qui concerne à peu près toutes les femmes d'une certaine génération, et même certainement encore aujourd'hui de la génération actuelle, et qu'elle arrive à diffuser tout au long du film. Et justement, alors on est un petit peu dans la continuité par rapport au film précédent, c'est-à-dire dans une gestion du temps qui permet ça. C'est-à-dire qu'en étirant ses plans au maximum, elle arrive à créer cette irruption de l'horreur, parce qu'il y a quand même On est quand même brutalisé dans le film. Je veux dire, il y a un moment donné où ce qu'on prend dans le visage, c'est très difficile. C'est d'ailleurs ce qui rend un peu paradoxal, parce qu'on a envie de le conseiller à la terre entière, le film. Mmh. Et en même temps, on en voit quand même les gens souffrir, parce que c'est une vraie souffrance. Quand on dit courez voir le film, moi, à chaque fois, j'ai oula, j'ai mon Dieu, qu'est-ce qu'on leur dit, quoi. Il faudrait quand même faire un warning énorme, vous allez en prendre plein la gueule. Mais c'est du cinéma, quoi. C'est le cinéma dans tout ce qu'il a de plus exaltant, dans tout ce qu'il a de plus pur. Et ouais, c'est une jeune fille de 25 ans qui fait ça. Je veux dire, on le dira, je le répète, mais on le dira jamais assez d'à quel point elle a réussi si jeune à cristalliser toute son œuvre dans ce film-là. Parce qu'elle a fait du cinéma jusqu'à sa mort, puisque elle est décédée à 65 ans. Elle s'est suicidée d'ailleurs après le décès de sa mère, qui a un petit peu un fil conducteur dans son œuvre, qu'elle a toujours illustré dans ses films, tant dans la fiction que dans le documentaire. Voilà, c'est fascinant à quel point, dès ce film-là, il y a tout, quoi.
Oui, et alors, donc, pour répondre, parce que j'ai dit une grosse bêtise, il était bébé à cette époque-là, Jonathan Zakaï, c'est Nils Harrestrup.
Voilà, Nils Harrestrup,
l'assistance vidéo, à part.
Merci, Francis. Jeanne Dielman est donc de retour en salle. Courez-y, chers auditeurs, chères auditrices. Vous allez vous en prendre plein la gueule, mais... c'est pour le mieux, c'est pour votre bien, en tout cas. Nouvelle ressortie que nous allons évoquer. Comme un certain nombre de garçons et de filles de mon âge, venus au cinéma au mi-temps des années 90, je suis tombé amoureux de la belle Winona Ryder, qui en quelques années avait su composer une filmographie assez admirable chez Tim Burton, évidemment, dans Beetlejuice et Edouard Main d'Argent, mais aussi dans le Dracula de Coppola et le certes mineur Night on Earth de Jim Jarmusch. Et puis, il y avait Le Temps de l'Innocence, réalisé par Martin Scorsese en 1993 et qui ressort en salle ces jours-ci. Avec le recul, j'en suis venu à penser que c'était avec ce film que, sans alors en prendre conscience, j'avais commencé à comprendre ce qu'était la mise en scène, la composition d'un plan, le sens d'un mouvement de caméra, mais aussi l'écriture d'une voix off, le travail d'adaptation, car le film est tiré d'un très beau roman d'Edith Wharton. Et puis il y a ces scènes d'opéra, ces fermetures à l'iris, ces compositions florales, et surtout ces correspondances lues face caméra par les protagonistes eux-mêmes, procédés qu'emprunteront Desplechin, inconditionnel du film, et plus récemment Rebecca Zlotowski dans une scène du très beau Les Enfants des Autres. Mais en voilà assez, une fois encore, je n'ai que trop parlé. Le sujet, en quelques mots: dans la haute société du New York des années 1870, Newland Harker, un jeune avocat, est fiancé à l'adorable May Wayland. C'est alors que la cousine de May, la comtesse Hélène Olenska, une jeune femme indépendante d'esprit et traînant à sa suite des rumeurs désobligeantes, revient d'Europe et pris de liberté, et désireux de rompre avec les conventions pesantes et mentalités étriquées de son milieu, Newland tombe aussitôt amoureux d'Hélène. Au casting, Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer et Winona Ryder. J'ai envie de te donner la parole, Florent. Nous avons un tout petit peu échangé hors antenne de cette émission.
Hors antenne, je te disais à quel point j'étais heureux d'avoir pu revoir ce film 20 ans après, parce que je l'avais vraiment... C'est un peu voilà, certaines portes d'entrée de jeunes cinéphiles. Scorsese, c'est quelque chose qui est un petit peu évident et un peu facile, parce que au début de l'époque du DVD, c'était des choses qui existaient déjà, qui étaient accessibles. Et le film, donc, il date de 93, et moi, là, j'étais peut-être un peu jeune à l'époque, mais c'est un film qui a pas trop marché. On est vraiment dans le il a moins rapporté aux États-Unis que son budget, hein. C'est cette époque où Scorsese est beaucoup aimé des cinéphiles, mais pas trop du grand public, hein. Il a fallu attendre son grand âge avec ses derniers films pour qu'il atteigne un public plus conséquent.
C'était avec After Hours, film des années 80 de Scorsese, c'était censé être les deux films plus ou moins maudits de la filmographie de Scorsese, les deux échecs commerciaux et supposément artistiques. Depuis, on est revenu sur les films en question.
Ouais, et qui sont des coups de génie extraordinaires. Alors, c'est une filmographie, la filmographie de Martin Scorsese, où il y a tellement de films d'un niveau à peu près équivalent ou qui ont des qualités diverses, que c'est difficile d'en sortir. Hein. Il y a pas de gens qui vont dire, bon, il y a Taxi Driver qui revient souvent, mais souvent ça laisse un peu les gens en arrière pour ces raisons là je pense que il y a pas comme chez Coppola quelque chose qui ressort un peu plus ou qui est plus évident. Et donc Le Temps de l'Innocence, c'est étonnant, parce que on donne quand même une image de film de gangster à Scorsese qui correspond à deux ou trois films seulement, un film pourtant. Mais le Temps de l'Innocence, donc on est chez Edith Wharton, donc roman culte entre guillemets, hein, même si l'expression est un peu pourrie, mais
Ne te dénigre pas.
Un côté très victorien, même si on est aux États-Unis. de cette société très aristocratique, ce qui est paradoxal dans un monde qui n'a pas d'aristocratie puisque pas de roi, mais qui reprend les codes en fait de l'Angleterre et de ce côté très victorien. Et au-delà du sujet, c'est vrai que ce qui fascine dans le film, c'est la forme. C'est déjà le film est monté. Enfin, je pense que le montage est quelque chose. On peut pas faire l'impasse sur ça par Thelma Schoonmaker, donc qui est la grande monteuse historique de Scorsese, même si c'est pas la monteuse justement des années 70, elle revient à partir de Raging Bull et elle fait tous ses films à partir de là, donc à partir de 81, et le montage est complètement fou. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'énergie de la caméra, le regard de Scorsese qui est un peu à l'image de ce qu'il est lui-même, volubile, qui tient pas en place, qui est tout le temps qui saute d'un pied sur l'autre, et ce côté très cut où on va d'une scène à l'autre, où on a 50 idées par plan. Il y a des idées tout le temps dans le film. On va en plongée, puis on va dans le gros plan, et puis on va en arrière, on insère des choses, on a ce que tu dis, à savoir des idées sur comment est-ce qu'on retranscrit la lecture d'une lettre, parce que forcément, là, on est beaucoup dans l'épistolaire dans le film. Des idées partout, des idées même dans le générique, c'est-à-dire la façon dont il compose le générique, qui est très différent de ce qu'il a fait dans d'autres films, où on a 10 idées dans chaque plan du générique. Et tout ça sans avoir même parlé de l'histoire, du casting et de tout ce qui s'ensuit. C'est un film qui est d'une richesse telle qu'on pourrait en passer, toute l'émission à en parler. Mais cette richesse-là, je trouve ça nécessaire d'en reparler parce que, ouais, elle donne une idée de ce qu'est la richesse même de la filmographie de Martin Scorsese.
Clément.
Je trouve ça assez intéressant que tu aies opposé, même si c'est artificiel, ce film-là au film de Mafia, justement parce que je me suis dit, mais dès la première scène, mais peut-être après 5 minutes, c'est exactement le même fonctionnement que n'importe quel film de gangster.
C'est un film de Mafia, Scorsese dans lequel les milieux se referment sur un personnage, pas avec des flingues, pas avec des mesures aussi coercitives, mais c'est par des billets doux, c'est par des couleurs, des gammes chromatiques.
Mais les billets doux lus à l'envers sont des lettres de menace de toute façon, donc c'est toujours plus ou moins effectivement la même chose. Parce que c'est une constante, le film est une constante redéfinition des termes du contrat de la scène précédente, de revenir constamment sur ce qui a été dit, de gérer assez brillamment toutes les micro-involution de n'importe quelle relation épistolaire, d'une virgule mal interprétée, qui effectivement, sous le règne de l'étiquette, où on n'est jamais ce qu'on est, mais ce qu'on apparaît en tant que, dans cette société, qui en plus, comme l'a dit Florent, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est sous le règne du pastiche, c'est-à-dire c'est le pastiche, c'est un pastiche anglais. D'ailleurs, le film lui-même, par Scorsese, qui a en plus souvent été considéré comme une sorte d'apôtre du mauvais goût, c'est presque un pastiche, effectivement c'est un pastiche victorien, ce qui est devenu maintenant presque une scorie de déclamer face caméra les lettres, ça reste du mauvais goût, c'est-à-dire il y a effectivement cette notion-là d'une forme de trop-plein qui redéfinit sans cesse ce qui est montré dans chaque scène, aidé par la grande fluidité de la mise en scène, par des ellipses qu'on peut dire quand même hardies, puisque le temps d'un léger mouvement de caméra, 40 ans passe, quand par le même mouvement, 2 semaines seulement s'était écoulé une heure plus tôt. C'est réjouissant, et c'est d'une continuité absolue avec les œuvres de Scorsese, et surtout celle à venir, qui est le grand œuvre des années 90, qui est Casino, qui reprend, c'est presque exactement le même film, déplacé dans une autre période, et qui commence déjà à instiller la grande fluidité d'action, comme le fait aussi d'apporter quelque chose de nouveau. Enfin, Gaël en parlait, j'en parlais avec Eric Neuf, non, c'est pas vrai, mais Gaël en parlait du fait de sortir des trois actes. C'est un film qui, en fait, déjà commence en étant à la fois très expansif et à l'os, à mettre à mal un petit peu la dimension classique, nouvelle Hollywood du scénario. Donc, c'est un film extrêmement intéressant qui l'est aussi par sa dimension, pas parodique, c'est un peu méchant, mais par le côté pastiche. De jouer à faire quelque chose, de jouer à travers l'ouverture d'un gant dans une calèche, à rejouer les scènes, les fameuses scènes érotico-cachées qui remontent à la princesse de Clèves, de prendre tout cet héritage et de le passer au tamis capitalisto-étrange des États-Unis naissants. Et c'est effectivement un très beau film.
Gaël.
Alors moi, je n'avais jamais vu ce film, tu vois.
Ah.
Je suis complètement passé à côté. Donc j'ai découvert il y a quelques jours, donc j'ai évidemment pas de recul particulier. Je peux juste te dire que j'ai déjà envie de le revoir, donc c'est plutôt bon signe. Je vais pas redire ce qui a été très bien dit jusque-là. Je dirais que c'est vrai que formellement, il y a quelque chose évidemment de très raffiné, de très très singulier, et notamment l'attention aux objets, aux détails. Tu vas voir que ça soit une comment t'appelles ça, purée, une fleur épinglée, un éventail, etc.
une pochette, une ombrelle.
Mais oui, mais exactement. Je veux dire, là, je pense pas que ça soit tiré par les cheveux que dire comme ce serait le flingue. Enfin, tu vois, comme on filmerait le flingue, comme on filmerait une arme du crime. Franchement, assez rapidement, tu dis, mais la façon dont il le filme, c'est comme Hitchcock qui filmerait une paire de ciseaux ou un truc comme ça. Oh putain. Voilà, ça va mal se mettre. Et effectivement, il y a un côté film de gangster, évidemment tout à fait différent en apparence. Et sur. Alors, attends, ça, j'y viendrai après. Il y a aussi, formellement, alors vous avez parlé effectivement des correspondances face caméra, des choses comme ça assez. Inattendues. Et il y a des trucs qui m'ont beaucoup plu, c'est le resserrement sur un personnage ou un petit conciliabule via un effet...
Les ouvertures et les fermetures aériennes, notamment dans une scène d'opéra qui est magnifique.
Ouais, absolument.
Où le silence se fait autour de Daniel Day-Lewis et Michel
Pfeiffer. Ça, c'est aussi par le son. Et effectivement, c'est dur à décrire. Oui,
fermer une scène, de toute façon, voilà. Je le connais par cœur. Donc,
donc c'est des choses, moi, que je n'ai pas tellement vues. Enfin, cette impression qui est en plus assez... C'est assez vrai, c'est-à-dire que si t'es dans une soirée, je sais pas quoi, que tu te concentres, que tu discutes avec quelqu'un, bah effectivement, le reste autour perd en consistance, perd en réalité. Là, c'est exactement ça qui transmet avec ce type d'effet. Alors, les intérieurs, la photo des intérieurs avec les feux de cheminée, les bougies, mais laisse tomber, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai même pas noté quel est le directeur photo, la directrice photo, mais c'est hallucinant.
Vous pouvez aussi suivre les différentes involutions et circonvolutions du récit par le jeu des bûches, oui. Voilà, d'une scène à l'autre.
Exactement, et comment la bûche se casse.
Exactement, la bûche qui se casse.
À certains moments. Il y a des moments, par exemple, est-ce que c'est pas l'hiver ou quoi? Il y a un très 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 grand plan, tout blanc, et il y a, je crois que c'est Winona Ryder, tout au fond, tout petit personnage comme ça.
Mais oui, c'est Winona Ryder.
Et tu auras le même, mais complètement printanier.
Ça me plaît de dire son nom.
Comment? Ça te plaît? Enfin bref, il y a des plans qui sont... je veux dire une énorme picturaux, enfin qui sont vraiment très très puissants.
Une maison isolée au cœur d'un
cœur
d'un océan de neige.
Effectivement. Et puis alors ce twist que pour moi il y a une espèce de twist complètement paranoïaque à la fin. C'est un film de complot. Enfin c'est-à-dire qu'il y a il y a des complots. Et alors le personnage de Winona Ryder qui est beaucoup plus, enfin qui n'est pas celui auquel on, enfin comment dire.
Alors, twist paranoïaque, mais dans lequel le personnage trouvera aussi une forme de réconfort.
Oui, oui, heureusement. Effectivement.
Une forme de consolation.
Mais en fait, comment, notamment, les femmes, ou en tout cas certaines femmes, arrivent à trouver une forme de puissance souterraine et à tirer les ficelles subtilement pour obtenir ce qu'elles veulent dans un milieu forcément très, 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 très masculin, où elles sont des espèces de petites choses à marier et tout. Mais comment elles peuvent retourner la situation
Le temps de l'innocence, merci, je suis ravi de voir que ça vous a plu ou plu à nouveau, puisque Florent, tu l'avais déjà vu. Le temps de l'innocence, le film est donc de nouveau en salle depuis le 13 avril, on va peut-être aller un petit peu vite sur notre dernier film, je vois Francis qui me fait brouf. Grâce à Malavida, c'est tout un programme de courts-métrages d'animation soviétique qui sortent ou ressortent au cinéma. Autour du Petit Hérisson dans la Brume, qui donne son nom au programme, le Petit Hérisson dans la Brume et autres merveilles plus précisément. Autour du hérisson susnommé, donc, et qui est l'œuvre de Yuri Norstein, et que pour ma part j'ai trouvé sublime. On retrouve donc La Moufle de Roman Katchamov, Il était une fois un chien d'Edouard Nazarov, le préféré de Clément de Léchaud, et Le Lionceau et la Tortue, donc tu connais également des chansons interprétées d'une voix suraiguë par Le Lionceau. Je pense que c'est Le Lionceau qui a une voix un petit peu au perché. Donc, Il était une fois un chien d'Edouard Nazarov et Le Lionceau et la Tortue d'Inessa Kovalevskaya, des films convoquant différentes techniques, dessins animé, papier découpé, stop motion. Le programme écrit la critique et actrice de cinéma Valentine Verag, elle va m'assassiner,
et oui.
Dans les fiches, s'achève sur Le Petit Hérisson dans la Brume, le plus connu des quatre courts et qui est un petit trésor. Animés à partir de papier découpé, les dessins ont une texture embuée et vaporeuse, où chatoient momentanément des lucioles avant de rejoindre les profondeurs d'un brouillard qui s'accorde merveilleusement avec les divagations, peut-être hallucinatoires, mais très certainement initiatiques du héros. Voudrais-tu bien, Francis, nous en dire un petit peu plus ?
Oui, je veux bien vous en dire un petit peu plus.
Toi qui es l'un de nos spécialistes en termes d'animation, en France et à l'international.
Oh là là, je ne sais pas si c'est la vérité, mais bon. Alors, effectivement, le film somme du programme, c'est le film de Yuri Nordstein. Alors, Yuri Nordstein, puisqu'on parle de classement, on en parlait à propos de Jane Dillmon, c'est vrai que Yuri Nordstein, lui aussi, à une époque, donc, Le Comte des Contes, qui est son film d'après, donc qui date de 79, a été élu meilleur film d'animation de tous les temps. C'était aux Olympiades de l'animation, qui se tenait à Los Angeles en même temps que les Jeux Olympiques de l'époque, donc en 1984. Alors effectivement, c'est toujours des classements. Le classement, c'est une photo à un moment donné, quoi. Mais effectivement, l'œuvre de Nordstein, c'est une œuvre bien sûr d'importance. C'est une œuvre qui n'est pas si considérable que ça en termes de nombre de films, mais on a effectivement ces deux derniers films, puisqu'il y en a eu quelques-uns avant, ces deux derniers films qui sont des films qui d'un seul coup révèlent comme ça l'univers qui est toujours un univers de frémissement, de fragilité, et que portera encore plus loin le Comte des Contes, avec ce petit loup qu'on va suivre à la fois dans un univers de contes, mais aussi dans un univers marqué par la guerre, quoi. Et là, moi j'ai envie de dire, peut-être pour démarrer sur ce film-là, que c'est un film, finalement, comme c'est un film enfant, pour enfants, un film enfantin, mais enfant aussi grand et vieux comme moi-même, c'est un film de la peur du noir. Et je dis ça alors qu'à contrario, le film montre un personnage qui va s'enfoncer dans la brume, donc dans le blanc. Mais il va y avoir comme ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce blanc ? Le personnage le dit lui-même, et d'abord il y a des êtres qui font peur. Les êtres qui font peur, voilà, c'est une chauve-souris qui apparaît de manière fulgurante à chaque fois. C'est un hibou très grand qui fait peur. Mais c'est aussi comme ça, d'un seul coup, la rencontre, la fragilité de la rencontre de l'éphémère et en même temps du souvenir qui s'y accroche. Et c'est ce cheval blanc qui, d'un seul coup, prend toute la place. Et après, moi, je dirais que tu parlais des techniques. Effectivement, le film de Nordstein, la technique, c'est les éléments découpés. Et en même temps, il y a plein d'images, il y a plein de moments dans le film où qu'est-ce qu'on voit ? De l'eau. Mais de l'eau qui est filmée comme si on était dans un documentaire. Il filme de l'eau. Et ce qui est absolument intéressant, c'est que l'eau, d'un seul coup, comme ça, très présente, elle vient révéler une fragilité. Et une fragilité qu'on peut prendre dans la technique même. C'est que le petit hérisson, c'est un élément découpé. Si le petit hérisson tombe dans l'eau, techniquement, il va s'abîmer. Et donc, voilà, c'est le génie d'Einstein, quoi. C'est d'un seul coup de se dire, et peut-être que c'est un génie inconscient, mais d'un seul coup de se dire, avec cette technique, je fais tomber mon papier dans l'eau, mon papier, il est foutu. Et ben, le petit hérisson, il serait foutu pareil, quoi. Et voilà, et c'est ce que j'ai envie de dire, avant de laisser la parole à mes petits camarades, sur ce film, mais je reviendrai quand même sur un autre film après.
D'accord. Petite cuisine interne que je pose comme ça sur la table. Est-ce qu'on a le temps d'éventuellement déborder un petit peu ? Est-ce qu'on sait si...
On va essayer.
On va essayer, d'accord.
Très nous bien. Verrons bien.
Alors, effectivement, des quatre cours présentés, le hérisson dans le brouillard est, je trouve, d'assez loin celui qui emporte la mise, quand même. C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant, une telle densité thématique... Un tel tourbillon vraiment cauchemardesque qui est quand même extrêmement bien reproduit, et on peut penser quand même que cette apparition fantomatique du cheval blanc a pu inspirer Lynch dans les moments les plus connus du cheval blanc de Twin Peaks, parce que c'est presque exactement la même représentation.
C'est la question que je me posais, moi. Il y a un petit garçon qui ne m'écoute pas, mais je le salue, qui s'appelle Yann, qui vient d'avoir 4 ans, à qui je voudrais beaucoup montrer le film. Est-ce que ça passe, ou est-ce que je vais lui donner des cauchemars jusqu'à ses 8 ans ?
C'est peut-être un peu tôt, mais c'est sans doute un peu tard pour le troisième court-métrage, qui est Le Lionceau et la Tortue, qui est, je pense, invisible, hormis peut-être pour quelques psychotiques. Je pense que personne n'est capable d'endurer une telle chose. Donc... Je suis désolé, non, j'aurais du mal à parler des autres courts-métrages, hormis le Hérisson dans le brouillard, qui effectivement, je ne suis pas du tout un expert en technique d'animation, mais qui relève à la fois bien sûr d'un sentiment de cadre, de premier plan, d'arrière-plan, de jeu de texture, qui représente exactement ce que peut être ce que peut revêtir un récit initiatique, c'est-à-dire à la fois une plongée dans l'inconnu et dans une nouvelle texture qui, à la fin, quand on revient au monde réel, a redéfini ce qu'on considérait comme normal ou ce qu'on considérait comme simple ou comme maternant, comme tout ce qu'on veut. Donc ce très beau court-métrage mérite qu'on se déplace. Pour le reste, j'aurais plus de mal à m'avancer.
Gaël, petite question qui était dans le dossier de presse fourni par Malavida. Oui. Quelle est la confiture qu'apporte le petit hérisson à son ami?
Attends, c'est pas. Attends.
Est-ce
que c'est pas myrtille?
Bien joué, Gaël. Ouais. Bien joué, Gaël. Bien joué, Gaël.
J'ai gagné quoi?
Tu as gagné mon estime et le droit à la parole.
Alors, attends, moi, je peux parler des trois autres films quand même.
Bien sûr.
Alors. Bah écoute, le premier, La Moufle, hein, qui est peut-être le plus politique du programme. Hein,
c'est un film de. Si t'as pas de chien, adopte une moufle.
Voilà c'est ça.
Pour
ça.
Tous les enfants solitaires du monde.
Non, moi j'ai trouvé que c'était un très beau film aussi. C'est-à-dire qu'en termes d'animation, je ne suis pas un connaisseur du tout de l'animation. J'ai trouvé ça. Est-ce que c'est possible de faire mieux en animation, en volume? Enfin, mais j'ai trouvé ça.
Oui,
Francis.
Non, mais oui.
Oh, bah oui.
Mais Shrek.
J'ai trouvé ça. Enfin, vraiment.
C'est pas de l'animation en volume, Shrek.
Non, mais voilà. J'ai trouvé ça d'une telle délicatesse. J'ai trouvé ça d'une telle délicatesse. Enfin, je sais pas, les gestes. Quand la petite fille caresse son petit chien et tout, mais les mouvements de la main. Enfin, j'ai trouvé ça. Mais vraiment. Très très beau, très très doux. Et puis le personnage de la mère là qui est tout le temps en train de lire son livre. Et je sais pas, il y a certains gestes qui semblaient vraiment des gestes comme on fait dans la vie, mais qu'on ne verrait pas si c'était un acteur qui les faisait. Et là, comme c'est
Delphine Seyrig.
Je l'attendais. Alors, eh ben écoute, oui, exactement. Alors là, c'est pas Delphine Seyrig, c'est juste une poupée. Mais notamment, la mère, à un moment donné, elle lit son livre et quand elle va se lever. Elle fait ce petit geste des jambes pour se propulser. J'ai dit, putain, mais c'est tellement ça, c'est tellement vrai. Mais comment c'est possible qu'une poupée fasse ça? Et je trouve que, je sais pas, ça, on voit des gestes de façon complètement différente, de façon complètement renouvelée. Moi, j'ai beaucoup, la moufle, je trouve que c'est très, c'est joli, mais le terme est tellement, ça fait débile maintenant quand on dit joli, mais il y a une tendresse, il y a une douceur et rien que de voir la beauté.
Comment disait que la joliesse, c'était pas une insulte, que c'était une première façon d'aborder les œuvres, une façon de poser un premier jugement avant d'aller plus loin. Donc
c'est
on a
qui
le droit, Marc Molk, que je salue.
Ouais,
on a donc le droit de dire d'un film qu'il est joli. Voilà.
Mais non, parce que quand on dit, oh, c'est un joli film, c'est-à-dire qu'on va pas y aller. Non, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Alors après, il y a Il était une fois un chien.
Voilà, qui
est pas mal.
Ukrainien, si je me fie au dossier de
presse. Qui est vraiment pas mal, c'est-à-dire que l'histoire est vraiment chouette et tout. Après, moi, les dessins, moi, me touchent pas forcément, mais après, il y a une belle expressivité, notamment du chien et du loup. Et je trouve les voix super. Vraiment, les acteurs qui font les voix, la voix du vieux loup, qui a baroudé, qu'on a chié des ronds de chapeau et tout. Et l'espèce de compassion entre les deux, alors que l'un a chassé l'autre et tout. Moi, j'étais presque la larmichette à la fin.
Mais le lionceau et la tortue.
Tu aimais aussi beaucoup les voix du lionceau et la tortue, je crois.
Alors là, mais il faudra qu'on m'explique ce film. Mais attends, il y a un dialogue qui dure 1000 ans sur « Peut-on chanter en étant allongé ?» ou je sais pas quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors déjà, visuellement, c'est un peu une agression. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est quand même un peu, je trouve, un peu dur visuellement.
Là, vous allez scandaliser Francis.
Mais si tu le passes à l'envers,
franchement, l'histoire en elle-même, l'intrigue, les personnages. Là, vraiment, je passe à côté. Je reste sur le quai. Et alors, le petit hérisson,
c'est
juste.
Pas mon préf non plus.
Juste pour conclure, le petit hérisson, quand il s'enfonce dans la forêt comme ça. Quand t'es derrière lui avec les arbres comme ça qui te passent, ou alors quand il est sur la rivière, qui fait la planche sur la rivière
et qui voit
au-dessus, en vue subjective, tu vois la nuit entre les branches et qu'il y a le cheval et tout. C'est là vraiment, c'est on touche au sublime quand même.
Ouais. Florent.
ouais, je trouve tout ça très juste. Donc moi, je fais plutôt un commentaire un petit peu à côté de tout ça. Ce qui m'a marqué d'abord, parce que j'aime bien l'aspect historique et tout ce qui entoure les films, et en l'occurrence, les films sont ont tous été faits entre 1967 et 1982. 67 pour La Moufle et 82 pour Il était une fois un chien. Et ça épouse quasiment à l'année près une période très particulière au niveau de l'Union soviétique, c'est l'ère Brejnev. Donc l'ère Brejnev, donc c'est une forme de réaffirmation de l'autoritarisme, du totalitarisme en Union soviétique, et après une période d'ouverture avec Nikita Khrouchtchev. Donc on est dans un moment très particulier quand même de l'histoire du pays qui voit naître ces films. Et quelque part, je trouve que ça dit quelque chose aussi de à la fois de l'Union soviétique, de la Russie et des films, parce que il passe beaucoup par la métaphore. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est commun. Alors on est, parce qu'on est dans le monde de l'enfance et tout ce qui s'ensuit, mais c'est la figure de l'animal dans chacun des courts-métrages, et qui permet donc cette idée de la métaphore. Et dans la Russie et l'Union soviétique, où on a quand même une tradition très ancienne, notamment dans la littérature, avec le 19e siècle et même avant, une façon de dire les choses, toujours déguisée pour pouvoir les dire. Parce que la répression, la police politique, c'est une vieille histoire en Russie. Je veux dire, la police politique tsariste, dès le 16e siècle, ça existait. Donc c'est quelque chose de très ancien. Et donc je pense que ça influe énormément sur la manière dont on raconte des histoires. D'ailleurs, la plupart sont des histoires traditionnelles, sont des choses qui sont ancrées dans l'imaginaire collectif des différentes nations qui composaient l'Union soviétique. Et elles permettent de dire des choses, même un film aussi agaçant et irritant que Le Lionceau et la Tortue, quelque part, je pense que à sa manière, il essaye de dire quelque chose par la métaphore et par l'image. Et donc oui, effectivement, c'est pas forcément pour ça qu'on le sauve et qu'il est bon pour autant. Mais mais il est quand même intéressant dans ça. Donc comment est-ce qu'on raconte une histoire quand on est quand même soumis à une censure extrêmement agressive à cette époque-là? Et ça découle jusqu'à, alors je trouve ça très très éloquent et très ironique, donc un détail de ce qu'a dit Francis au début de son de ce qu'il a dit, à savoir que si le Comte des Contes a été donc décerné meilleur film d'animation de tous les temps à Los Angeles en 84, faut quand même rappeler que c'est l'année des Jeux Olympiques où l'Union soviétique n'est pas là, justement parce qu'on est encore dans un rapport bloc contre bloc et où il y a des boycotts, quoi. Donc c'est une petite ironie qui me plaît beaucoup, justement parce que ça parle en filigrane de ce que c'est que l'Union soviétique et ce moment précis où ces films se développent, quoi.
Francis, tu voulais ajouter quelque
oui,
chose?
Oui, alors j'avais envie, un petit peu pour rebondir finalement, parce que suite à ta demande, j'ai beaucoup parlé du Nordstein, mais quand même parler des trois premiers films, effectivement, comme l'ont fait aussi remarquer mes petits camarades autour de la table. Moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, Il était une fois un chien et Le Lionceau et la Tortue, qui sont quand même deux films où règne l'anthropomorphisme à 200%, c'est presque comme des propositions alternatives. On est dans du dessin animé, c'est presque finalement du Walt Disney, du Walt Disney soviétique. Je vais faire hurler forcément en disant un truc comme ça, mais je veux dire, on est sur des récits très cadrés. On sait où on va et on est sur une technique repérable. Ce qui n'enlève pas leur qualité à l'un comme l'autre. Je pense que là, on a beaucoup gossé sur Le Lionceau et la Tortue, mais là, si je le prends en termes de programmation, il est juste avant le hérisson, le petit hérisson dans le brouillard. Le programme est proposé dès 3 ans. Je pense que il est intéressant en termes de programmation, parce que d'un seul coup, c'est un film qui est frais, qui est léger, qui va divertir au sens strict du terme, avant d'entrer peut-être dans un conte comme ça qui va demander... peut-être qu'il va apeurer et qu'il va demander plus d'attention, plus de présence. Donc ça, c'est pour parler en deux mots de ces deux films, mais effectivement, c'est pour revenir sur quand même le film qui ouvre le programme, La Moufle de Roman Kachanov de 67. Je pense que quand même, alors on est sur une animation en volume, hein, des marionnettes, je pense que quand même c'est un très grand film, quoi. Moi j'y vais à fond, hein. D'abord parce qu'il y a une élégance formelle dans le mouvement, Gaël en parlait, mais et puis oui, on peut faire mieux, mais je veux dire, il a déjà fait énormément, et puis après, si d'autres font mieux, ou
attends, je disais, est-ce qu'on peut faire mieux, dans le sens où je n'ai jamais vu aussi bien.
Oui, voilà, mais j'ai bien compris, disais, pardon, oui. Mais bien sûr, mais voilà, je veux dire qu'à l'époque, en plus, il peut pas, il a pas de possibilité de 3D pour certaines choses ou pour les décors ou pour quoi que ce soit, pour créer sa profondeur de champ ou quoi que ce soit. On est sur un plateau de tournage d'animation en volume et il fait avec les moyens du bord. Et il y a des choses incroyables. Et c'est peut-être là où est l'art de la mise en scène dans l'animation, c'est ce que j'appellerais son art de la métamorphose. Et quand la petite fille commence à caresser la mouffe qui se transforme en petit chien, mais le plan est d'une fluidité sur le raccord et sur la transition qui est invisible, quoi. J'ai